Alors, oui, c'est parfait, ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans la méthodologie de la recherche pluridisciplinaire. Pour réaliser cette étude et afin de comprendre la prostitution des mineurs en France, hors mineurs étrangers, nous avons souhaité travailler à partir de 8 approches différentes et complémentaires avec nos 3 disciplines que sont la psychologie, la médecine légale et la sociologie. Pour ce, nous avons réalisé une revue de la littérature de chacune de nos disciplines, également recensé les outils et fait une veille de l'actualité quasiment quotidienne. Nous avons également travaillé à partir d'analyses de dossiers de procédure judiciaire close et nous remercions tout particulièrement les services de police, de gendarmerie, mais aussi les parquets qui nous ont confié ces procédures. Nous avons également pu travailler avec les services statistiques du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Nous les remercions particulièrement et nous savons qu'ils sont là aujourd'hui. Nous avons pu réaliser des entretiens avec des parents de mineurs victimes, des entretiens avec des mineurs victimes et puis des entretiens avec des professionnels. Et nous vous remercions aujourd'hui d'être aussi nombreux et présents également. Et pour compléter cette méthodologie, afin de comprendre la prostitution des mineurs, nous avons également réalisé des observations de terrain, des observations lors d'audiences judiciaires. Nous avons pu réaliser une maraude et réaliser également, participer aux réunions du plan de travail interministériel dont M. Cata a fait part à l'instant. Ce matériel recueilli l'a été pendant une année, de novembre 2020 à novembre 2021, sur 14 territoires métropolitains. Au cours de tous ces mois de recherche, nous avons pu rencontrer 201 professionnels au cours de 121 entretiens sociologiques. Pardon. 16 mineurs victimes de prostitution ont été rencontrés, 7 parents de mineurs victimes également. Et puis nous avons assisté à 6 audiences judiciaires, étudié ces fameux 31 dossiers judiciaires clos, et puis assisté et avoir contribué à une maraude de la prévention spécialisée avec l'ADAP 13. Merci Olivier. Et également réeffectuer cette veille documentaire quotidienne qui était très importante, puisqu'on a vu au fur et à mesure de cette année de recherche que des professionnels s'emparaient de cette problématique, que les médias également s'emparaient de cette problématique. Donc la veille documentaire a été de plus en plus importante. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est à partir des recommandations qui émanent de l'analyse de nos données, c'est d'organiser ce temps de travail, ce temps de restitution avec vous, à partir de ces 4 principales recommandations, et de commencer par la première, qui est l'information. L'information qui est essentielle à notre sens, mais je pense pour tout le monde également, pour informer les professionnels, informer le grand public, afin que les adultes, professionnels et parents notamment, puissent informer et sensibiliser à leur tour les mineurs, faire de la prévention auprès de ce public. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on puisse regarder le tutoriel qui a été développé sur la prostitution des mineurs. Donc ce tutoriel, il a été écrit à partir de l'analyse de nos données de terrain et il vient compléter la série des tutoriels que réalise le CVM sur les violences sexuelles sur mineurs. Et ils sont construits en 4 temps. Vous allez voir, ces vidéos sont construites avec, dans un premier temps, les définitions du sujet, puis ensuite le cadre légal, les conséquences pour les mineurs et leur entourage, et également les aides et actions possibles, avec à chaque fois, comme objectif pour ces différentes vidéos, de transmettre de l'information, mais également une information qui soit claire et objective. Mélanie, si tu veux compléter.
Que tout
dit. Non, très bien. On vous laisse regarder cette première vidéo. Et puis voilà, sachez que toute l'après-midi, nos échanges vont être également rythmés par cette présentation d'outils.
C'est quoi la prostitution des mineurs? Échanger un acte de nature sexuelle contre une rémunération ou une promesse de rémunération?
Ce serait mieux avec l'image, peut-être.
Ah. Excusez-nous. Je regarde monsieur de la régie, je relance.
C'est quoi?
Si je lance. Est-ce que si je lance par là?
Voilà. C'est quoi la prostitution des mineurs? Échanger un acte de nature sexuelle contre une rémunération ou une promesse de rémunération, quelle qu'elle soit, et de la prostitution. Cet échange peut être ponctuel, occasionnel ou régulier. Lorsque la personne à qui on demande de réaliser un acte de nature sexuelle est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans, on parle de prostitution de mineurs ou encore d'exploitation sexuelle de mineurs. En France, la prostitution des mineurs est interdite. Une personne qui sollicite ou qui accepte un acte de nature sexuelle d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 18 ans contre une rémunération est poursuivie et punie par la loi. Inciter, aider, assister un mineur à se prostituer ou encore récupérer l'argent de l'acte sexuel est également condamné par la loi. Cela s'appelle du proxénétisme et les proxénètes risquent de lourdes peines de prison et une amende importante. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est en danger et est considéré comme victime de ses actes. Les filles et les garçons peuvent être concernés. Ils sont parfois très jeunes et issus de tous milieux sociaux et géographiques. Certains mineurs disent être d'accord pour réaliser ces actes sexuels et n'ont pas conscience ou ne reconnaissent pas être victimes de prostitution. Ils disent être consentants. Cependant, la loi française exclut formellement qu'un mineur puisse donner son consentement dans ces situations. Il s'agit bien de violences sexuelles. Même si les victimes disent souvent que les proxénètes sont gentils avec elles, très vite, un rapport de domination et d'emprise s'installe avec des violences physiques, sexuelles et psychologiques, des menaces et du chantage. Le plus souvent, les victimes ne récupèrent pas l'argent des clients, confisqué par le ou les proxénètes. La prostitution peut entraîner des conséquences sur la santé physique et psychique à court, moyen ou long terme. Il peut y avoir des risques de maladies sexuellement transmissibles et ou de grossesse. Au niveau psychologique, on peut avoir peur, se sentir triste, sale, dégoûtant, honteux, coupable, avoir envie de mourir. On peut avoir des problèmes pour dormir, manger, travailler, se mettre en colère sans trop savoir pourquoi. Souvent, on se sent très seul. Si tu te prostitues ou si tu as connaissance qu'un mineur se prostitue ou s'est prostitué, le mieux, c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. Tu peux aussi contacter le 119. C'est un numéro gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre toute personne et de protéger les victimes. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé.
Donc voilà un des premiers outils qu'on voulait vous soumettre. Alors vous avez vu, pour ceux peut-être qui connaissent la série, on reprend exactement la même infographie et le même déroulé. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer. Alors vous voyez, on s'adresse aux mineurs, on s'adresse aux enfants, aux adolescents. L'objectif, c'est que cette vidéo-là, en fait... Alors,
c'est quoi la...
Peut-être qu'une seule fois, ça va vous suffire. Tu peux rappuyer encore, voilà. Et je vais retrouver ma pensée. Oui, l'objectif, alors, vous voyez bien, on s'adresse directement à eux. Ça va être sur les réseaux, donc clairement, ça a sa propre vie. Je vois le tuto sur le viol est arrivé quasiment à 500 000 vues, donc il y a une vie propre sur les réseaux. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est que ces supports-là soient un support, justement, pour les professionnels, pour les adultes autour. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire que nous, on puisse en parler, et ça sert en médias. J'ai vu nos amis de Colosse qui étaient dans la salle, je ne sais pas où, mais ils sont par là-bas. Voilà, je sais qu'effectivement, c'est des supports qu'ils peuvent utiliser aussi. Donc c'est vraiment, enfin, on vous le transmet, on vous le confie, j'ai envie de dire, si vous le trouvez bien évidemment pertinent et utile, mais pour pouvoir en parler aussi avec les jeunes. Alors déjà, nous informer, nous, je crois que c'est important que ces films-là soient vus par le plus grand nombre, parce que même, notamment les commentaires sur le tutoriel du viol, c'est assez effarant de lire les commentaires pour se rendre compte qu'encore beaucoup ne connaissent pas la définition même du viol. Donc là, la prostitution, autant vous dire que je crois que personne trop connaît la définition. Donc voilà, de pouvoir vraiment, ce volet information nous paraît vraiment essentiel. Alors, on n'a pas la prétention de dire que tous ces outils, bien évidemment, répondent à tout. Hein. Mais comme voilà, ce que, notre objectif, c'est de proposer ces ressources et après, effectivement, que ça puisse se diffuser. D'autres choses, mesdames, que vous vouliez dire? Je te laisse la parole, Charlotte, pour... Et puis peut-être que les questions, tout ça, on se les laisse pour la, après la, avec la table ronde, comme ça on échangera à ce moment-là.
Bonjour à tous. Charlotte Gorgière, je suis médecin légiste, je travaille à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu. Je remercie également mes collègues de l'UMJ de leur vigilance sur toutes ces situations de prostitution, ce qui nous a permis évidemment d'enrichir en quelque sorte nos données. J'ai la difficile tâche de vous présenter les résultats statistiques de notre recherche. Alors je vous rassure, c'est une diapo 5 minutes. Donc normalement, je ne vais pas trop vous endormir avec les chiffres. Juste pour vous expliquer un petit peu la façon dont on a travaillé et vous expliquer la difficulté vraiment de pouvoir avoir des chiffres fiables sur le territoire français. Je refais un petit parallèle avec nos autres pays européens dits à haut revenu et puis pays nord-américains. Il faut savoir qu'il y a très peu de données statistiques sur le plan international sur ce qu'est la prostitution des mineurs. Autant dans les pays en voie de développement, il y a beaucoup de chiffres et de recherches sur la prostitution dans ces pays dits défavorisés, mais dans les pays à haut revenu, très peu d'études. On a retrouvé 11 études originales pour quantifier un petit peu ce phénomène, et les chiffres vont entre 0,2 à jusqu'à 4% des jeunes de moins de 18 ans qui seraient victimes de prostitution. Donc c'est pour vous dire qu'on part de données qui sont quand même extrêmement importantes. En France, aucune étude statistique fiable n'a réussi à recenser le nombre de victimes mineures. La principale difficulté de quantifier ces chiffres, c'est qu'en France, on n'a pas accès à des jeunes dits scolarisés, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale ne permet pas encore de pouvoir questionner les jeunes sur cette problématique durant leur scolarité. Je vais passer sur les éléments chiffrés du rapport. Première donnée, la question des chiffres qui nous ont été remontés par les services statistiques de police et de justice ne reflète absolument pas les données qui nous sont remontées par les associations. Lorsqu'on interroge les services statistiques sur le nombre de dossiers, de procédures qui sont remontés dans les services et police-justice par les équipes de terrain, en fait, on se rend compte qu'il y a une centaine de dossiers par an, alors qu'évidemment, vous, travailleurs et professionnels locaux, vous rendez bien compte qu'on est bien en deçà de ce que vous voyez au quotidien. Donc, les données statistiques ne traduisent pas la réalité de terrain, ça c'est la première difficulté, ce qui encourage évidemment à faire des enquêtes de victimisation pour avoir des données qui soient plus représentatives de ce qui est réellement cette problématique. La deuxième donnée importante, c'est de vous dire que, comme le disait monsieur en préambule, les affaires de prostitution de mineurs sont en augmentation en France. Je vous le disais tout à l'heure, entre 2016 et 2021, une augmentation de 68% des dossiers qui sont remontés aux services police et gendarmerie. Pour vous dire que voilà, c'est un phénomène qui est en train d'augmenter. Alors, est-ce que ça augmente parce que le nombre de cas augmente ou est-ce que les chiffres sont augmentés parce que la révélation des professionnels augmente? C'est encore quelque chose qu'on n'a pas réussi à bien analyser sur le plan statistique. Troisième donnée importante, les mineurs victimes de prostitution ainsi que les auteurs de proxénétisme ou de recours à la prostitution sont majoritairement de nationalité française. Et il faut bien avoir l'idée que c'est un phénomène franco-français. On est très loin des images. Évidemment, ça ne met pas sous le tapis les autres formes d'exploitation sexuelle et en particulier des femmes de traite des êtres humains d'origine étrangère. Mais voilà, en tout cas, dans les procédures qui sont remontées sur le plan judiciaire, c'est des victimes qui sont françaises et des proxénètes qui sont français. Autre donnée intéressante, l'âge des mineurs. On a des âges, évidemment, nous, on s'intéresse aux mineurs, c'est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans. On a des âges qui sont quand même bas, avec des victimes qui peuvent être âgées. Alors, la moyenne, c'est entre 14 et 17 ans, mais on a des très jeunes victimes, des victimes qui sont âgées de 11 ou 12 ans. Donc, c'est bien pour vous dire que le phénomène, on est loin d'un phénomène qui, à la marge, s'intéresse à des jeunes autour de l'âge de la majorité. On est autour d'un phénomène qui victimise des personnes qui sont jeunes, voire très jeunes. Et puis enfin, dernier élément intéressant sur le plan statistique que l'on a réussi à démontrer dans notre recherche, c'est que les auteurs de proxénétisme sur mineurs sont majoritairement des jeunes hommes, âgés entre 18 et 24 ans, jeunes hommes de nationalité française. Donc on est loin là aussi de l'image du vieux proxénète bedonnant, cinquantenaire, voire plus, excusez-moi pour les cinquantenaires de la salle. voilà, c'est vraiment des jeunes hommes qui exploitent d'autres jeunes filles parce que le lien se crée aussi de la proximité en âge de ces victimes. Et puis, dernière donnée extrêmement importante et peut-être à travailler aussi, c'est que le nombre d'affaires rapportées aux autorités judiciaires, dans 50% des situations, les affaires sont classées sans suite. Ce qui veut bien dire la difficulté des parquets à pouvoir décider une peine pour les mises en cause, soit parce que c'est des dossiers dans lesquels il n'y a pas de victime, c'est-à-dire les personnes ne se sentant pas victimes, les procédures finalement ne vont pas au bout puisqu'on est devant des parquetiers qui sont sans victime dans des dossiers, soit des situations, et dans la plupart des situations c'est le cas, une infraction insuffisamment caractérisée, c'est-à-dire la difficulté à prouver qu'il y a eu une infraction parce que le client dit évidemment qu'il ne connaissait pas la minorité de la victime, le proxénète dit évidemment qu'il ne connaissait pas la minorité de la victime, voilà, etc., etc. Beaucoup d'arguments et beaucoup d'éléments qui font que dans les dossiers de procédure, les choses sont difficiles à juger. Voilà un petit peu sur les données statistiques. Je ne vous en dis pas plus parce que la totalité des éléments sont évidemment dans le rapport. Et je remercie encore une fois les services statistiques du ministère de l'Intérieur et de la Justice de nous avoir aidés vraiment de ce riche échange et de cette compréhension interne avec les services. Peut-être j'en dis plus sur les... Oui, dire quand même que je vous en ai dit quelques mots en préambule, la difficulté d'avoir des données fiables nécessite évidemment des enquêtes de victimation et nécessite aussi que les différents services se comprennent. Pour vous expliquer un petit peu les choses, le service statistique du ministère de l'Intérieur n'emploie pas du tout les mêmes termes que le service statistique du ministère de la Justice, d'où une difficulté à pouvoir quantifier les dossiers et à pouvoir suivre un dossier. Lorsqu'un dossier est arrivé en service de police ou de gendarmerie, après, il est codé d'une certaine façon. Je vais essayer de faire très simple pour ne pas endormir tout le monde. Il est codé d'une certaine façon. Et après, lorsqu'il est transmis à un parquet, en fait, il est codé d'une différente façon. Ça veut dire qu'on a du mal à identifier, dans tous les dossiers de procédure qui sont ouverts en France, on a du mal à identifier les situations de dossiers de prostitution, de proxénétisme sur mineur. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'infraction en tant que telle, prostitution mineur, n'existe pas. On parle de proxénétisme sur mineur, d'exploitation sexuelle, de traite des êtres humains sur mineurs, mais l'appellation prostitution de mineurs n'existe pas, ce qui fait évidemment une difficulté supplémentaire de pouvoir mettre en évidence ces dossiers-là. Et enfin, troisième difficulté, vraiment sur le plan statistique et méthodologique, lorsqu'on parle de traite des êtres humains, on englobe toutes les formes de traite des êtres humains, y compris les formes d'exploitation par le travail. Donc nous, on a exclu, entre guillemets, volontairement les dossiers de traite des êtres humains parce qu'on ne peut pas savoir s'il s'agit d'exploitation sexuelle ou d'exploitation par le travail. Donc c'est un des biais méthodologiques aussi, c'est de dire qu'on a du mal à repérer, dans toutes les données statistiques, on a du mal à repérer les dossiers qui relèvent d'une situation de prostitution de mineurs. D'où l'intérêt, évidemment, que les services statistiques coordonnent entre eux et parlent un langage commun, et d'où l'intérêt évidemment de pouvoir poursuivre ces études statistiques qui sont extrêmement intéressante et importante pour arriver à mieux quantifier le phénomène, puisqu'encore une fois, aucune donnée statistique fiable n'existe à l'heure actuelle sur le territoire français. Voilà, j'en ai terminé.
Oui, puis juste peut-être compléter aussi. Enfin, là, on parle on parle enquête de victimation, on parle service statistique, mais par exemple aussi que ce soit PJJ ASE, enfin, qu'il y ait ce langage commun qui, à l'heure actuelle, fait grandement défaut. Mais ça, peut-être que vous en parlez, je veux bien le... Super. On en reparlera. Puisqu'on parlait d'enquête de victimation dans la population générale, mais on va le voir juste, et vous le savez aussi déjà, c'est que c'est une population qui ne va peut-être pas trop à l'école. Donc aussi de pouvoir avoir accès via d'autres méthodologies pour savoir effectivement auprès de la population dit fragilisée si effectivement c'est une population qui pratique la prostitution ou pas. Donc moi je vais vous parler effectivement de comprendre quel parcours de vie des mineurs victimes de prostitution. Là aussi je vais essayer je vais être assez rapide et reprendre le schéma qu'on a mis dans le rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la prostitution, ce n'est pas le début hein, de quelque chose, c'est vraiment quelque chose, enfin, d'un aboutissement de. L'aboutissement de quoi ? L'aboutissement d'un parcours de vie extrêmement difficile. On retrouve d'un point de vue statistique, que ce soit dans les dossiers judiciaires, que ce soit dans les dossiers médicaux, les jeunes qu'on a pu rencontrer, et je pense que vous avez aussi, de par votre expérience, un peu les mêmes retours. En tout cas, c'est la recherche, mais c'est aussi la revue de la littérature internationale et aussi nationale par les différentes enquêtes qui ont été menées en France, par les associations. On retrouve cela, c'est-à-dire à la fois donc, des antécédents de vie potentiellement traumatiques, un environnement familial et parentale fragilisée et une confrontation traumatique à la sexualité. Généralement, on peut avoir le trio, excusez-moi l'expression, mais le trio gagnant, vous mettez ça dans un checker, vous avez des ados qui vont au plus mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ces ados au plus mal, et je rejoins ce que M. Cata disait tout à l'heure, c'est-à-dire pas focaliser sur la prostitution. Alors on est dans la thématique repérée, mais je vais tout de suite aller dans la protéger et accompagner surtout. Accompagner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas regarder que la prostitution, c'est-à-dire de pouvoir replacer dans le contexte général. Et on a des jeunes qui ont déjà vécu tout ça avant même les pratiques prostitutionnelles. Donc ça ne vient que rajouter, je vous disais en introduction la question des extrêmes, on est dans la conduite, enfin dans les pratiques extrêmes à tout niveau, et puis vous êtes confrontés à ces extrêmes et c'est ça qui est difficile. Mais on a ce cumul-là et donc on va avoir des ados, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, vous êtes certainement mieux informés que moi là-dessus aussi, mais qui ne vont pas du tout être en capacité ou avoir les compétences à la fois pour se représenter, pour avoir une représentation adaptée de soi-même et des autres. Donc leur message, il est complètement flouté. Et ils ne sont pas outillés pour faire face aux dangers qui vont se profiler à eux. Et c'est là où après on en viendrait à la question de la prostitution. Donc ce sont des ados en souffrance, fragilisés, qui ne disposent pas, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on pourrait avoir comme outil interne quand on a grandi dans un vécu, dans un contexte chaleureux, contenant, bienveillant où tout va bien quoi. Enfin, toujours pareil, hein, vous grandissez dans un milieu bienveillant, chaleureux, avec de l'argent, vous allez certainement un petit peu mieux que si vous avez rencontré des problématiques. Donc c'est ça c'est ça qui est vraiment important, cette question de mauvaise santé mentale, de perte de motivation et d'intérêt. Donc ça va aussi là, tout de suite on est sur la question de la prise en charge, comment on va réussir à les happer et faire qu'ils créent du lien et les remotiver à quelque chose. Et donc, on va en reparler aussi, cette question des fugues. Les fugues, enfin, c'est pas que fugue, prostitution égale fugue. Alors, fugue égale pas forcément prostitution, mais on est quand même dans quelque chose où on a une espèce de systématisation aussi, que la fugue expose aux pratiques prostitutionnelles. Donc ça, c'est vraiment important, et donc de comprendre ça. Donc on est sur un aboutissement d'un parcours, que c'est pas du tout le début de quelque chose, et qu'il faut falloir prendre soin dans la manière globale de ces adolescents-là, pour justement pouvoir faire qu'il y ait d'une, ils sortent de ces pratiques et de deux, qui puissent se réinsérer et surtout vivre une vie des plus satisfaisantes possibles. Je te laisse peut-être prendre la main.
Comme Mélanie vient de le dire, on a compris en tout cas la prostitution des mineurs comme une confrontation à l'extrême, mais puis surtout on a... Au fur et à mesure de nos entretiens, de nos temps de terrain, on a compris qu'il n'y avait pas une prostitution, mais des prostitutions, ou du moins un caractère vraiment protéiforme à la prostitution des mineurs, puisqu'on n'a pas un schéma qui va se répéter, mais une pluralité de situations, autant sur les vecteurs de mise en contact entre les clients et les proxénètes, qui peuvent se faire via les réseaux sociaux numériques, on le sait, mais aussi dans la rue, au cours d'une fugue, aussi dans des hôtels. On a également des pluralités de comportements entre les proxénètes et leurs victimes. On parlait tout à l'heure de relations. Pendant le tuto, en tout cas, il y avait cette relation qui était dans un premier temps peut-être amoureuse et qui devient ensuite violente entre le proxénète et sa victime. Et puis la pluralité des lieux de prostitution qu'on aborde davantage. On a la prostitution indoor, en hôtel, en appartement, en Airbnb. Et puis également la prostitution de rue. Et de la prostitution dans une pluralité de lieux, avec aussi des durées et des fréquences de prostitution qui sont vraiment diverses d'un parcours à un autre, avec également différents lieux de prostitution, différents temps de prostitution et des tarifs également différents en fonction des prestations et des lieux de prostitution. On a également des modes de révélation plurielles, et ça, on a pu vraiment travailler sur cette compréhension grâce notamment au dossier judiciaire qu'on a pu étudier. Des modes de révélation plurielles parce qu'on a aussi également des professionnels qui sont aujourd'hui plus équipés et qui commencent à être davantage informés et qui commencent à repérer des professionnels de l'éducation nationale qui sollicitent aussi d'autres professionnels du département, de l'ASE. On a des éducateurs qui sont davantage sensibles et qui repèrent ces violences-là. À chaque fois, par contre, et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu repérer autant dans nos entretiens avec vous, avec les mineurs, avec les parents, et dans les dossiers judiciaires, c'est qu'il y a toujours des violences associées, des violences physiques, psychologiques et sexuelles, bien évidemment, et elles sont quasi systématiquement rapportées par les mineurs victimes. Autre chose dans cette confrontation à l'extrême, donc Mélanie parlait de la fugue à l'instant, et puis également donc des mineurs qui sont déjà en situation de vulnérabilité de par leur vécu, de par leur parcours, avec des mauvaises rencontres de personnes plus âgées ou bien du même âge, hein, également, qui vont abuser de cette vulnérabilité qu'ils ont décelée. Ça peut être aussi bien avec un proxénète garçon qu'une proxénète fille aussi, hein, une copine comme un petit copain. Et puis également ces mésusages des réseaux sociaux qui sont malheureusement vraiment vecteurs de cette mise en danger. Et puis la facilité de mise en relation dont je vous parlais durant la fugue, qui peut avoir lieu dans des hôtels lors de fugues, mais également sur les réseaux sociaux, à l'école également, et dans les foyers, ou bien tout simplement dans les transports, les lieux de passage, notamment les gares, sont également des lieux de rencontre et de mise en relation importants. Ce rapport à l'argent aussi est quelque chose qu'on a toujours constaté comme favorisant la prostitution, puisqu'il faut notamment financer les fugues, excusez-moi. Et ce qu'on remarque, et dans le rapport, on a essayé d'en faire part à travers une cartographie, c'est vraiment la mobilité très importante de ces mineurs et leur temporalité variable. Une mobilité importante que tous acteurs qu'on a pu rencontrer, vous nous avez rapporté, et on l'a vu à travers notamment les dossiers judiciaires. On a essayé d'en faire une première cartographie, on espère pouvoir à nouveau travailler dessus, puisque c'est un outil qui nous semble très intéressant pour vous les professionnels, et puis pour continuer à comprendre cette problématique.
Je me permets juste sur la question du rapport à l'argent, enfin les jeunes disent bien, enfin en tout cas dans ceux que j'ai pu entendre, c'est vraiment ce côté addictif. On parle beaucoup sur cette question de argent facile. Et ils disent ça, on est bien d'accord que c'est absolument pas facile, c'est l'argent rapide. Oui. Mais ce côté, où, et notamment pour en sortir, ou à quel point c'est difficile, parce que justement ça tombe facilement, rapidement pour nous. Mais pour eux c'est facile, c'est-à-dire, enfin, puis on verra sur cette question de conséquences psychologiques, enfin, vraiment le corps est complètement mis de côté là. Et donc c'est ça aussi qui est difficile pour sortir de cet engrenage-là, cette question du rapport à cet argent qui tombe un peu comme ça du ciel, après 5 minutes d'un acte.
Alors, hop, pardon. Quels outils tu veux je te laisse introduire.
Donc, dans les suites de nos recherches et un petit peu de la compréhension de quels étaient les facteurs de risque et les éléments qui pouvaient aboutir à un moment donné le mineur à rentrer dans une activité prostitutionnelle, on a souhaité développer des outils évidemment à l'attention des professionnels, mais aussi à l'attention de toute personne qui est en contact avec les mineurs pour bien les éveiller au repérage de ces éléments. Donc les outils sont construits de la même façon, c'est des outils qui font 2 minutes, des outils qui sont disponibles évidemment, qui seront disponibles gratuitement sur le site du CVM, dont il faut vous emparer, et puis après, qui peuvent servir de support à des discussions en interne entre professionnels, et puis qui peuvent aussi être évidemment diffusés auprès d'autres professionnels. Je vous diffuse tout de suite les outils, et éventuellement après on reviendra peut-être sur des questions, en espérant que ça démarre.
Ah, le suspense est à son comble. Non ?
Non. C'est pas grave, je vais meubler pendant ce temps-là.
Non, mais on peut là, oui. Normalement, juste en bas, il y a le...
Quels signes doivent alerter sur une situation de prostitution d'un mineur ? La prostitution des mineurs est une violence sexuelle. Comme toute violence sexuelle, elle est rarement révélée par les enfants et les adolescents qui la subissent. Honte, culpabilité, dégoût, peur et bien d'autres sentiments peuvent les empêcher de se confier. Certains mineurs n'ont pas conscience ou ne reconnaissent pas qu'ils sont victimes de prostitution. Pour bien repérer ces situations, il est donc nécessaire de connaître les signaux d'alerte. Fugue répétée, usage intensif des moyens de communication et des réseaux sociaux, changement de comportement, possession de sommes d'argent inexpliquées, addiction, traumatisme physique, demande de dépistage d'IST ou d'IVG, hygiène inhabituelle, rapport au corps inadapté, possession de vêtements de rechange, difficulté et ou absentéisme scolaire, actes auto-agressifs, doivent alerter le professionnel et l'entourage du mineur, surtout s'ils se conjuguent. D'autres signes doivent attirer l'attention, les facteurs de vulnérabilité antérieure. Des expériences de victimisation, un environnement familial dysfonctionnel, des comportements sexuels à risque, une santé mentale fragilisée, des prises de toxiques, des difficultés relationnelles marquent souvent le parcours des mineurs victimes de prostitution. Tous ces signes nécessitent d'être explorés. Face à ces situations, ne restez pas seul. Parents, proches, vous pouvez en parler à un ami, à une personne en qui vous avez confiance. Professionnel, vous pouvez en parler à un collègue, à votre équipe. Vous pouvez aussi contacter le 119, l'unité d'accueil pédiatrique Enfants sans danger ou l'unité médico-judiciaire de votre département, les urgences pédiatriques, les services de soins pour adolescents, la cellule de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes de votre département, des associations spécialisées. Enfin, des outils sont là pour vous aider et vous guider. Merci et à bientôt.
Voilà, donc ça c'est un outil qui est vraiment plutôt à destination des professionnels. Vous voyez que c'est une infographie différente de la première vidéo que l'on vous a diffusée tout à l'heure, qui est plutôt à l'attention du grand public, adultes, parents, jeunes. Voilà, ce support-là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que ça serve d'ouverture à des discussions en interne, dans des groupes. Évidemment, je pense que pour vous, sur ce type de vidéo, vous n'allez pas apprendre grand-chose parce qu'en tant que professionnel de terrain, vous avez déjà ces alertes-là. Mais il faut bien se rendre compte qu'évidemment, les professionnels de l'éducation nationale, les professionnels de la santé, les professionnels du monde associatif et social ont parfois moins ces signaux d'alerte en tête et que ça vaut vraiment le coup de pouvoir appuyer dessus et discuter après. Et ça peut ouvrir des discussions sur des situations précises. Je vais laisser la parole.
Juste pour compléter ce que tu dis, donc, vous allez voir, c'est un kit vidéo. Donc, on va vous présenter aujourd'hui 3 vidéos. Donc, là, c'était la première. Il y en a 5 au total. On aimerait en faire 2 autres aussi. Enfin, on a plein de projets, mais après, si vous, d'ailleurs, vous voulez nous faire un don, n'hésitez surtout pas. Donc, on aimerait pouvoir voilà, faire que ce kit-là de sensibilisation s'étoffe. L'idée aussi, c'est que là, on présente, et vraiment, quand je dis on vous les soumet, c'est qu'on vous les soumet. C'est-à-dire que là, c'est des outils qui sont en construction. Alors, Arnaud va me fusiller du regard et toute l'équipe communication en disant « Non, on ne change plus rien !» Mais si, parce que... avec des sous, bien évidemment, mais l'objectif, c'est que si on... Bien évidemment, si l'outil n'est pas pertinent, n'est pas utile, il ne sert à rien. Donc c'est pour ça aussi que vous avez dû recevoir le questionnaire, et Martine va en parler sur le guide de repérage, puisque l'objectif c'est de faire évoluer aussi, enfin que ce soit vraiment des outils pratico-pratiques. S'ils sont dans un tiroir, ça ne sert à rien. Donc là aussi, n'hésitez surtout pas, que ce soit tout à l'heure là dans notre échange aussi, mais par mail ou tout ça, à nous transmettre vos retours. C'est comme ça qu'on fera évoluer les choses, c'est comme ça qu'on fera que ces outils soient vraiment, on espère en tout cas, les plus utiles et qu'ils soient utilisés, tout simplement. Martine.
Je pense que je vais rester à ma place. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Balançon. Je suis pédiatre médecin légiste. J'ai deux services d'affectation que je remercie aussi, hein, la CASED au CHU de Rennes et l'unité médico-judiciaire de Paris dans le service effectivement de Charlotte Gorgia. Et je suis aussi présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale. Et c'est à ce titre-là qu'on a mené en commun un travail avec le CVM. La commande aujourd'hui sur 15 minutes, c'était effectivement de vous faire part de l'expérience qu'on peut avoir sur le repérage de la prostitution des mineurs et le défi que ça peut représenter. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Voilà. Ça paraissait intéressant de vous montrer, j'ai fait des captures écran en fait, de réactions de professionnels de santé, de médecins, dans la suite de la publication d'un article sur la prostitution des mineurs. Un rapport préconise de former les soignants aux signes évocateurs. Et on voit les réactions. Alors, il y avait trois réactions de médecins à cet article. La prostitution des mineurs n'est pas un problème médical, mais un problème de société. Il faut que les médecins apprennent les signes de la maladie, entre guillemets. Ensuite, on prescrira de l'antiprostite en comprimé pour soigner le mal. Et on sortira un vaccin. Alors, c'était en plein épisode de Covid. Donc, juste pour vous dire, ces réactions, c'était le 16 juillet 2021, donc il y a un an. Et donc on part de loin pour le repérage de ces situations particulièrement difficiles. Donc la prostitution des mineurs, c'est un phénomène extrêmement difficile à voir parce que, je crois que ça a été dit un peu autour de la table, c'est aussi des situations d'une grande gravité, enfin d'une extrême gravité avec des situations de traumatisme complexes. Comme toutes ces situations de traumatisme complexe, elle invite le médecin qui va les rencontrer, le pédiatre, d'abord à quelque chose qui est de l'ordre du déni, de la sidération, de la contamination de la pensée, de l'impossibilité de penser. Et ce qu'on perçoit en fait dans notre travail quotidien, par exemple sur les lésions sentinelles du tout petit, hein, qui sont des situations de maltraitance possibles, où on est dans la capacité de penser, il faut être plusieurs pour penser, on a la même chose, strictement la même chose, dans les situations prostitutionnelles. C'est doublé d'une autre chose que sont la méconnaissance ou la mauvaise connaissance des éléments de repérage des situations prostitutionnelles qui, encore une fois, je le rappelle, surviennent chez des enfants et des adolescents qui ont un parcours particulièrement chaotique. On doit faire face aussi à la représentation de la prostitution par les mineurs, c'est-à-dire que si on prend des papiers qui avaient été faits, notamment un qui est un peu ancien, fait par le mouvement du Nid en 2012, on s'aperçoit que chez un tiers des mineurs interrogés dans la population générale, les représentations de la prostitution étaient tout à fait mauvaises, en tous les cas méconnues. Et puis, dans cette même étude, en fait, on s'apercevait aussi que l'idée de monnayer des services sexuels de façon unique n'était pas considéré comme de la prostitution 6 fois sur 10 et le fait que ça soit aussi une monétisation par exemple de vidéos ou de supports sexuels n'était pas considéré comme une situation prostitutionnelle. Donc ça montre aussi la méconnaissance des mineurs par rapport à ce sujet. Et l'idée aussi, et là on reprend une étude qui avait été faite par l'ODPE du Nord assez récemment, sur les situations prostitutionnelles qui génèrent aussi chez les jeunes qui sont dans ces situations-là des effets positifs aussi, d'une part de l'autonomie financière, de la réponse à leurs besoins d'affection et d'attention. La possibilité aussi pour eux d'avoir de se réapproprier leur vie, c'est quand même assez intéressant aussi de voir ce point-là, d'appartenir à un groupe et d'être considéré comme un adulte. Donc en tous les cas, c'est certainement des choses à prendre en considération dans le traitement médical et en santé au plan OMS qu'on va avoir de ces situations. Les adultes aussi sont dans une difficulté de reconnaissance, on l'a pu l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dans l'idée que les situations prostitutionnelles chez le mineur, c'est avant tout les mineurs isolés, et c'est faux. On a l'idée que les garçons ne sont pas impliqués, et c'est faux. Et on a aussi l'idée que les milieux marginaux sont les seuls concernés, et c'est faux. Donc, difficulté à voir, mais aussi difficulté à concevoir, et à concevoir aussi au travers de la définition. C'est-à-dire qu'on a une définition qui émane d'un arrêt de la Cour de cassation en 1996, effectivement, qu'il va falloir adapter. Alors, je parle sous la responsabilité de M. Charbonnier, que j'ai vu dans la salle, dans les suites du groupe de travail qui s'est tenu en 2021 et qui était vraiment d'une qualité incroyable. Et vraiment, merci encore de nous avoir associés, nous, pédiatres, à ce travail. Il y avait vraiment l'idée qu'il fallait aussi réfléchir sur cette monétisation par rapport à l'évolution, et l'évolution notamment sociétale et l'évolution des réseaux sociaux. Il y a aussi, dans la difficulté de concevoir l'idée, enfin la réalité, que les situations prostitutionnelles sur les remontées de données des CRIP à l'ONPE, c'est pas un point à part entière. On va le remonter sous la forme de violences sexuelles ou de négligence ou d'atteinte sur le mineur lui-même, mais ça ne va pas être une entité à part entière. Il y a aussi un déni du côté des mineurs sur la façon dont on en parle, c'est-à-dire on en parle avec des mots qui sont plutôt valorisants, le escorting, michetonnage, des choses qui peuvent être projetées dans le monde des adultes, et du côté des professionnels et des adultes aussi, on peut avoir cette question-là, qui est une question où on ne parle pas de prostitution, pas de proxénétisme, mais on a en fait des indicatifs et des dénominations qui sont beaucoup plus soft. Les soignants que nous sommes, alors j'en fais partie, ça a été très intéressant de travailler sur ce sujet parce qu'on a pu décortiquer aussi ce qui nous met à mal dans toutes les situations que nous rencontrons sur les situations de violence, et celle-là est d'une particulière gravité. Donc tout d'abord, le soignant qui va être confronté à la prostitution, il va avoir la tentation de la norme, c'est-à-dire qu'on a dans l'idée qu'un adolescent qui a une vie sexuelle qui commence à être active, eh bien effectivement, elle doit être comme ceci ou comme cela, et effectivement, voir arriver des jeunes qui vous disent qu'elles ont eu plusieurs rapports sexuels dans le même week-end, ça peut nous mettre en difficulté. Ça fait aussi pour nous, pédiatres, qui sommes aussi des médecins qui travaillons sur une population d'enfants qui a une sexualité un peu larvée, ça nous confronte à la sexualité des adolescents, et ce qui n'est pas toujours facile. Vraiment, je fais amende honorable, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans le public des pédiatres, en tous les cas que je peux représenter aujourd'hui. Et puis, les situations prostitutionnelles, c'est la question de la non-demande. C'est des jeunes, elles ne demandent rien, c'est « attrape-moi si tu peux ». Quand les médecins sont là, c'est souvent des rencontres ponctuelles sur des prises de risques, sur des violences, des grossesses. Alors là, j'étais à Rennes de garde mardi soir, et j'ai reçu une jeune fille de 15 ans qui effectivement avait peur d'une IST et qui était en situation prostitutionnelle, et quand on lui décline ce qu'on pourrait faire pour elle, effectivement il a fallu gérer la non-demande des soins psychiques qu'elle actait vraiment, mais en tous les cas cet accueil aussi inconditionnel, c'est-à-dire qu'on lui a gardé un lit pour l'hospitaliser parce qu'elle était prête à le faire. Il y a de façon quasi constante un refus des soins psychiques, parce que c'est la représentation, je suis pas fou, je suis pas folle, les soins psychiques j'en ai déjà eu plein, je suis suivie à l'aide sociale à l'enfance et je n'en veux pas. On a aussi chez ces jeunes-là clairement une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour réagir. Ils sont dans une situation, c'est ce que nos collègues psychiatres appellent aussi, même dans les crises familiales suicidaires, cette fenêtre d'opportunité. On a quelques heures, quelques jours pour agir, et après la fugue aidant, après la vie continue, et on ne peut plus trop avancer. Et il faut toujours que ces jeunes-là, on puisse accompagner ces jeunes dans le cadre de la vulnérabilité que confère la minorité. Il y a aussi la question de la place des pères, parce que les pères sont souvent vécus comme étant menaçants dans l'entourage. Donc c'est des jeunes qui, quand elles sont hospitalisées, n'ont plus trop de visites, ou en tous les cas, quand il y a des visites, il y a vraiment un vrai contrôle. Et donc l'entourage, les pères, génèrent vraiment une menace à l'égard de ces jeunes. Et en fait, c'est comment est-ce que, sur le plan éducatif ou médical, on va faire un pas de côté pour accompagner la présence de père ou la présence de la famille pour qu'elle se passe de la bonne façon. Et puis, il y a la question aussi, à mon sens, qui est très présente, c'est aussi comment est-ce qu'on gère le non. C'est-à-dire, une jeune fille qui va être hospitalisée, alors c'est plus souvent des jeunes filles, qui ne voudra pas de soins pédopsychiatriques, je pense particulièrement à un dossier, on va pouvoir se dire, en fait, si, on va te contraindre à avoir des soins, d'ailleurs, tu vas avoir une hospitalisation, une OPP sanitaire pour être soignée. Comment est-ce qu'on peut, alors qu'on est en train de travailler avec elle, le fait qu'il faut qu'elle sache dire non, qu'on va reconnaître l'altérité dans nos relations, comment on va faire pour que cette jeune, finalement, puisse accéder aux soins sans qu'on la contraigne ? La prise en charge de ces mineurs dans une dynamique de pédiatrie médico-légale, alors il y a une flèche qui est partie dans la bataille, doit s'appuyer sur un trépied de soins, prendre soin, bien sûr, la protection de ces mineurs qui doit être une constante dans ce qu'on peut leur proposer, et l'évaluation et le constat, c'est-à-dire que quand elles viennent avec, sur une situation médico-légale, bien sûr qu'il va falloir pouvoir répondre à cette question. En tous les cas, il faut certainement intégrer leur parcours dans un parcours de risque ou de danger ancien subi. Il va falloir aussi prendre en considération ce parcours ancien, mais répondre aussi à leurs demandes qu'elles vont amener au moment où on les rencontre, et des rencontres qui vont être le petit bout de la ficelle sur lequel on va pouvoir tirer pour faire alliance avec ces jeunes. Alors effectivement, là où elles sont aussi menaçantes vis-à-vis des professionnels, c'est que parfois, c'est un échec, elles partent, elles refusent, mais pour autant, on aura fait. Donc c'est vraiment important de s'ouvrir toujours, nous, en tant que professionnels, c'est ce pourquoi on plaide, à une prise en charge en santé globale, c'est-à-dire vraiment être santé physique, psychique, sociale, et ne pas être dans « moi, je suis spécialiste de l'infection sexuellement transmissible ou de la grossesse ou du psychotrauma complexe », mais vraiment d'être en lien. Et je pense que c'est vraiment important que ces jeunes soient accueillis dans les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger avec l'appui des équipes référentes enfance en danger. Je me tourne vers Laure Nélias, avec qui on a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui répondent aux mesures 6, 7 et 14 du plan de lutte contre les violences sur mineurs. Alors une UAPED, c'est quoi? Ça ne va pas beaucoup vous parler. En UAPED, service de pédiatrie, UMJ. Les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, c'est des unités qui sont pédiatriques, dédiées aux enfants, dans un lieu de soins, dans lesquels on va pouvoir faire de l'évaluation, du constat et des soins. C'est-à-dire qu'on va amener la compétence du pédiatre somaticien et aussi du médecin légiste qui va faire le constat. Donc, en fait, on peut travailler sur des protocoles de repérage et de diagnostic pour pouvoir donner des avis, comme le font des équipes mobiles, par exemple sur les équipes mobiles mucoviscidose, par exemple, je prends cette idée qui me vient en tête. Et on peut ainsi diffuser la connaissance de la clinique de la violence. On est aussi là pour être en appui des professionnels, et je pense notamment à nos confrères de ville, pour annoncer des IP et des signalements judiciaires, parce que l'essentiel pour les médecins de ville et les praticiens de ville, c'est de repérer et ensuite de transmettre pour qu'ils aient un appui solide en lien avec les départements, avec les CRIP et les médecins référents protection de l'enfance. Et c'est un lieu aussi où peuvent être réalisées les auditions filmées, avec un lieu dédié pour les mineurs. Ça évite les auditions multiples, les surtraumatismes. Le lieu est sécurisant. On a vraiment le modèle des Child Advocacy Center ou des burn-out, donc on a vraiment l'idée qu'on peut avoir un accès le plus précoce possible aux soins, et on garantit ainsi une démarche éthique à la prise en charge des mineurs. L'enjeu du repérage est après, une fois qu'on a repéré, ça nous a beaucoup mobilisé avec les équipes du CVM pour vous proposer la création d'un flyer qui puisse être en trois parties avec repérer, protéger, orienter, qui puisse être à disposition des professionnels et qui puisse aider quand on a une situation à risque pour l'orienter au mieux. Donc c'était vraiment un travail de collaboration intéressant. En conclusion, des prises en charge médicales et en pédiatrie médico-légale, les situations prostitutionnelles chez les mineurs sont des situations d'une très grande complexité, et c'est en fait la chronique annoncée des expériences adverses dans l'enfance. Et on a vraiment affaire à des jeunes qui vont particulièrement mal dans ces situations prostitutionnelles, avec des traumas complexes, avec des parcours de vie, des suivis médicaux qui sont souvent très chaotiques. Et en tous les cas, ce qu'il est important pour les soignants, en fait, que nous sommes, pédiatres, médecins, l'ensemble des soignants et des professionnels qui interfèrent, c'est quelle est ma place dans ce parcours. Bien sûr qu'on ne sera pas omnipotent, c'est-à-dire que bien sûr que seul, en fait, on ne va pas réussir à extraire un enfant ou d'une situation prostitutionnelle ou à lui apporter des soins qui soient pertinents, mais en même temps, c'est important de considérer que le praticien est un maillon de la chaîne. Et du coup, le maillon de la chaîne, il sait d'où vient le maillon d'avant, c'est-à-dire j'ai repéré et à qui je dois adresser. C'est important aussi d'avoir en tête que dans ces situations de prostitution repérées, ces jeunes filles, ces jeunes garçons sont réputés en danger, donc il y a effectivement la possibilité pour le médecin et même l'obligation de protection et bien sûr de se délier du secret professionnel au titre de l'article 226.14 et la possibilité de partager des informations à caractère secret dans l'intérêt du mineur. En tous les cas, ce que ça fait, c'est sur notre pratique à nous, médecins. C'est vraiment très important, en tous les cas, de professionnaliser ce champ-là, avec la difficulté aussi que ça atteint une catégorie d'âge qui est souvent les 15-18 ans. Et donc, les services de pédiatrie s'arrêtant entre 15 et 17 ans, les maisons des adolescents, la majorité. Enfin, c'est aussi tout ça qu'il va falloir qu'on tricote ensemble, mais avec une conviction et une seule, c'est qu'en fait, ce qui soigne ces jeunes filles ou ces en situation prostitutionnelle, c'est les liens que nous avons les uns avec les autres. En fait, c'est vraiment quelque chose que je peux retenir, moi, de l'expérience, mon expérience professionnelle, c'est le fait de pouvoir se parler, d'être en lien sur ces situations qui sont insupportables, en tous les cas, qui sont très rejetantes pour nous. Et puis, bien sûr, une des façons d'en parler à l'hôpital, c'est effectivement, dans nos hôpitaux, et aussi avec les conseils départementaux impliqués et avec la justice, c'est effectivement travailler sur une modélisation de pratiques que sont les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger et les équipes référentes enfance en danger. Voilà, mais c'est vraiment des dossiers complexes. Je vous remercie.
Merci Martine. Donc, dans les suites de ce travail et de cette collaboration avec les pédiatres et tous les membres du CVM, donc nous avons créé ce flyer qui sera disponible évidemment gratuitement sur le site du CVM. Et l'objectif, le rappelait Mélanie tout à l'heure, c'est que ces outils soient en évolution et soient en amélioration constante. Donc là, c'est vraiment une version 1.0 du flyer, ce qui nous a conduit à essayer de mener une enquête d'évaluation de cet outil que je vais vous présenter extrêmement rapidement. Donc on a distribué l'outil à notre cercle de connaissances de professionnels, à toutes les personnes qui avaient participé aussi à la recherche et que Hélène Pohu avait rencontré au cours de ces différents entretiens. On a diffusé l'outil et puis ensuite on a diffusé le questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient les retours sur cet outil. Donc 92 répondants, 14 professionnels, principalement des professionnels médico-sociaux, infirmiers, assistants, psychologues. Je ne vais pas détailler en tout, ça vous l'aurez dans la présentation.
Juste Charlotte, excuse-moi. Pardon. Simplement, on a là en fait, si vous voulez, on est allé assez vite sur cette enquête puisque le flyer, on l'a réceptionné il n'y a pas très longtemps et on a simplement 3 semaines, 1 mois à peine de diffusion et de demande de retour. Donc c'est vrai que cette enquête aujourd'hui, elle est vraiment très restreinte et on souhaiterait pouvoir à nouveau faire évaluer cet outil. Donc n'hésitez pas après à nous faire vos retours, notamment après cette journée.
Donc 17 institutions représentées, principalement, étonnamment j'allais dire, des professionnels de l'éducation nationale. Non mais je mets les pieds dans le plat. Collège, lycée, qui ont été finalement assez réactifs à la prise en main de cet outil. Et puis des structures ASE, PJJ, associations spécialisées et des départements. 21 départements représentés avec une grosse représentation de la Loire-Atlantique par les réseaux de Madame Pohu et puis les autres et de Madame Messina, excusez-moi. Donc un flyer qui a été largement diffusé dans la région nantaise. Et puis évidemment, voilà, on a essayé de le diffuser largement sur le territoire métropolitain, sachant que évidemment notre et Guadeloupe également représentée, je le dis, sachant que notre souhait évidemment c'est aussi de que ces outils qui sont disponibles gratuitement puissent être aussi exportés dans tous les territoires et départements ultramarins. Première question, avez-vous déjà bénéficié d'une sensibilisation ou d'une formation sur la prostitution des mineurs? Quasiment 50-50, hein, 40%, 49,5% non et 50,5% oui, sachant que dans la plupart des situations, la formation était plutôt récente. Hein, 46% des personnes avaient bénéficié d'une formation en 2022, 47% entre 2017 et 2021. Alors que les formations les plus anciennes étaient moins représentées. Donc ça veut bien dire qu'il y a aussi une évolution des mentalités et une accélération de la formation des professionnels sur cette thématique-là. Seconde question, avez-vous déjà été confronté à une situation de prostitution mineure avant l'utilisation du flyers? Oui, dans 62,4%. Donc ça veut dire aussi qu'on a bien ciblé les professionnels, c'est que c'était des professionnels qui étaient évidemment confrontés à ces situations. Et dans 28% des situations, les professionnels déclaraient avoir pris en charge plus de 10 situations. Donc on voit quand même qu'on a affaire à des professionnels qui sont quand même très au fait de ces situations. Le flyers a-t-il été rapide à lire? Oui, dans 90% des cas. Et a-t-il été facile à s'approprier? Oui, également. On a voulu vraiment l'idée d'un outil qui était facile, pratique. C'est une page A4 qui se divise en trois, facile à mettre dans sa poche, comme à y penser, comme un pense-bête quand on est professionnel. Le flyers vous a-t-il permis de plus facilement poser les questions sur la prostitution que vous rencontrez? Alors oui, dans quasiment 70% des cas et non dans 30%, sachant que alors le biais un petit peu méthodologique du questionnaire, c'est de ne pas avoir mis de cases non concernées. Donc c'est vrai que ça nous biaise un petit peu les résultats à ce niveau-là, ce qui sera aussi une des possibilités d'amélioration pour à la fois le flyer futur et le questionnaire futur. Le flyer vous a-t-il permis de repérer plus facilement la prostitution chez les mineurs? Oui, dans 62% des cas et non dans 38% des cas. Même biais que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de répondre non concernée. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, sur une échelle de 1 à 5, à combien évalueriez-vous l'aide que le flyers vous a apportée dans votre pratique professionnelle? Une aide très faible, minoritaire, et une aide assez importante dans la majorité des cas. Donc, on espère évidemment que ce flyers aidera les professionnels à mieux repérer les signes et aidera aussi les professionnels à savoir quoi faire devant une situation de prostitution. Quelques remarques qui nous ont été remontées par les professionnels de terrain rendent plus lisible le flyers. Alors c'est idiot, hein, mais on a choisi une mise en page infographique qui nous semblait intéressante. Et en fait, apparemment, c'est pas facile pour tout le monde. Donc on va aussi prendre ça évidemment en compte. Des difficultés face aux signaux, beaucoup de professionnels qui nous ont répondu. À partir de combien de signaux on doit s'alerter? Ce qui est toujours extrêmement complexe dans ces situations, puisqu'on voit qu'il y a multiples facteurs de risque. Et évidemment, ce n'est pas une association spécifique, il n'y a pas de signes spécifiques ou pathognoméniques de la prostitution, c'est un ensemble de signes. Et c'est pour ça que la concertation pluridisciplinaire est extrêmement importante dans ces situations. La difficulté de transmettre un protocole unique du fait des disparités locales. Toutes les régions n'ont pas encore du APET, toutes les régions n'ont pas encore d'associations localement qui prennent en charge ces situations. Donc évidemment, on a essayé de faire un flyer ce qui soit le plus adaptable possible, mais il faudra peut-être penser à des possibilités de particularités locales pour mettre par exemple un encart avec le numéro de téléphone d'une structure source localement. Et puis, je vous le disais, voilà, parfois des absences de ressources locales. Et d'autres idées, éventuellement de mettre un QR code qui renverrait à une application ou à un interlocuteur spécialisé dans l'écoute dans ces situations-là. Et ça pourrait être l'idée de développer une autre version du flyer avec qui s'adapterait en fonction de la localisation de la personne qui demande de l'aide pour savoir où l'orienter. Les biais et les limites, je vous le disais, l'absence de la case non concernée, un petit effectif parce qu'on a réalisé l'enquête dans un temps assez restreint, une représentation hétérogène des professionnels, des institutions et des départements, et puis un outil qui est vraiment voué à évoluer, à accompagner et à être associé aux autres outils du fait de la complexité et de la problématique. Évidemment, outils à associer avec une nécessaire formation sur la prostitution des mineurs.
Merci. Oui. On va continuer notre table ronde sur un nouvel outil, une nouvelle vidéo qui, elle, concerne la manière dont on peut aborder le sujet face à une situation de suspicion de prostitution de mineurs. Je vous propose qu'on visionne cette vidéo toujours construite avec l'analyse et puis les retours des entretiens menés durant cette année. Et puis ensuite, on continuera ce temps d'échange avec Léa Messina qui nous parlera justement de la conduite d'entretien avec les mineurs. Alors, est-ce que la vidéo va marcher? Voilà.
Face à une suspicion de prostitution d'un mineur, comment aborder le sujet avec lui? Parents, professionnels, vous pouvez suspecter qu'un mineur de votre connaissance se prostitue. Voici quelques conseils pour savoir comment aborder le sujet avec lui. Poser un cadre rassurant. Pour pouvoir se parler dans de bonnes conditions,
Prévoyez un temps dédié pour le mineur et pour vous dans un endroit calme qui respecte la confidentialité. Être authentique. Amorcez la discussion en partageant vos inquiétudes, en parlant de ce que vous avez constaté. Utilisez le vocabulaire du jeune et employez le terme prostitution uniquement si le jeune l'emploie. Soyez honnête avec lui. Je souhaitais que l'on se rencontre car il y a des choses que j'ai pu constater et qui m'inquiètent. Ne pas juger. L'objectif de la rencontre est que le jeune puisse vous parler de sa situation. Ne lui demandez pas de vous expliquer pourquoi et comment il en est arrivé là. Centrez-vous sur comment il va et ce qu'il se passe pour lui dans sa vie. L'objectif, ce n'est pas de dire si c'est bien ou non, mais juste de comprendre ta situation et d'en discuter ensemble. Respectez la temporalité du jeune. Ce n'est peut-être pas la même que la vôtre. Il peut se confier, confirmer vos suspicions, mais il peut aussi nier toute prostitution et refuser de vous parler. L'important est de respecter ce refus et de laisser la porte ouverte. Je comprends que tu n'aies pas envie d'en parler maintenant. Je reviendrai vers toi pour que l'on puisse en parler si tu le souhaites. Ne pas promettre de garder le silence. Expliquez pourquoi vous devez en parler à des professionnels. Mon travail d'adulte, c'est de te protéger. Pour ça, je dois en parler à des professionnels dont le rôle est aussi de te protéger. Si vous êtes professionnel, expliquez-lui aussi que ses parents seront informés par l'autorité compétente si la situation prostitutionnelle est confirmée. S'appuyer sur la loi. L'objectif est de ne pas culpabiliser le jeune ni le rendre responsable de sa situation. Je ne sais pas si tu connais la loi, mais en France, le fait que des adultes donnent de l'argent, des cadeaux, un avantage à un mineur contre un acte de nature sexuelle est interdit par la loi et que toute personne doit être protégée de ces actes. Face à ces situations difficiles, n'hésitez pas à contacter le 119 et consulter les outils disponibles. Merci et à bientôt.
Voilà, donc nouvelle vidéo qu'on a pu réaliser à l'aide de vos retours de terrain, également de vos questions, de vos difficultés que vous avez pu nous partager et qu'on a souhaité rassembler pour créer un autre outil, et un outil qui vient en complément bien sûr des vidéos et nous le verrons bientôt d'une trame d'entretien. Léa, je te laisse la parole.
Très bien, merci. Donc là aujourd'hui la question c'était de se dire comment aborder la prostitution en entretien avec des mineurs, puisque ce qui était dit et nous on rejoint ça sur le département, mais je vais vous expliquer un peu comment on travaille, c'est que très souvent on ne sait pas et que c'est important aussi de pouvoir réfléchir à comment l'aborder, puisque notre rôle c'est en effet de protéger mais aussi avant tout de comprendre. Donc en Loire-Atlantique, on a un dispositif qui s'appelle mineurs en situation de prostitution. C'est pas très joli, il va avoir un nom un jour, mais on a d'abord voulu se concentrer sur le fond. Et ça y est, on commence à travailler la forme. Donc moi, je travaille pour une structure qui s'appelle l'ATEDEC. C'est l'Association Territoriale pour le Développement de l'Emploi et des Compétences. Il ne faut pas le retenir, en fait, c'est seulement la fusion Mission Locale Maison de l'Emploi. Donc... pour faire un peu la genèse, depuis 9 ans, à la mission locale de Nantes, on a décidé de travailler de façon spécifique auprès du public en situation de prostitution, puisqu'on s'est rendu compte que c'était important de créer un maillage partenarial, de pouvoir vraiment développer des compétences propres et de pouvoir identifier des personnes, des professionnels qui allaient pouvoir travailler ensemble sur ces questions auprès du public et donc comprendre aussi leurs attentes, comprendre leur réalité et pouvoir mettre en place de façon très concrète des actions sur notre territoire pour pouvoir faire avancer les choses. En 9 années, on a accompagné 230 femmes, très majoritairement des femmes. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans 80% des cas, elles avaient démarré le recours à la prostitution durant la minorité, parfois extrêmement jeunes, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, on en parlait tout à l'heure. Et finalement, nous, on arrivait un peu tard dans ce parcours, parce que la violence, ce que nous on appelle l'ancrage des conduites prostitutionnelles, était déjà extrêmement présent. Et donc quand on recevait ces personnes qui avaient 22, 23, 24 ans, on se disait peut-être que nous, on a raté quelque chose parce qu'on n'est pas intervenu avant, parce qu'on n'a pas pu prendre les choses en amont, être dans une prévention, mais aussi dans cette réduction des risques, et puis pouvoir accompagner pour permettre à ces personnes de ne pas être dans ce cycle de la violence qui se répète, avec tout ce que vous avez pu dire sur, oui, derrière la prostitution, c'est compliqué d'arrêter pour plein de raisons, et quand on arrive tard, c'est encore plus difficile. Donc il y a eu cette volonté de se dire, on va créer un dispositif à destination des mineurs. Donc aujourd'hui, on reçoit des mineurs qui ont entre 12 ans et 16 ans, en grande majorité, et de se dire qu'on ne peut pas faire seul, et que la notion de regard croisé, de pluridisciplinarité, de pluri-institutionnalité, elle est importante parce que c'est un phénomène complexe, parce qu'on est face à des jeunes qui, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé sur ces derniers mois, ne se reconnaissent pas comme en situation de prostitution, et que réfléchir ensemble, c'était vraiment mettre en place une dynamique. Donc le dispositif, en fait, il est composé d'une plateforme d'écoute. Il y a un numéro unique qui est mis en place là depuis septembre 2021, du coup. Ce numéro, il est à destination des professionnels, mais aussi des proches et des mineurs eux-mêmes. Une plateforme d'écoute, puisqu'en fait, ce n'est pas seulement un numéro sur lequel on appelle et on signale une situation de prostitution avérée, c'est un numéro sur lequel on appelle parce qu'on peut échanger. Les professionnels vont nous appeler en disant, écoutez, on n'est pas sûr, on a des inquiétudes, on se pose des questions. Et finalement, j'ai envie de vous dire, c'est presque le meilleur moment, puisqu'on n'est pas sûr et qu'on n'est pas dans une forme de déterminisme et qu'il n'y a pas toujours de la prostitution, et heureusement. Cette plateforme, elle permet aussi souvent à des parents de pouvoir appeler, poser des questions, être entendus. Et l'objectif, suite à cette plateforme, c'est de pouvoir se dire qu'on va travailler donc avec un consortium, les associations que vous voyez ici. C'est des professionnels qui sont de plusieurs champs, et suite à ça, nous, en fait, on présente ces situations et on réfléchit ensemble à comment on intervient. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut préconiser et comment on va pouvoir soutenir les professionnels, soutenir les parents, accompagner les mineurs avec un objectif qui est celui, bien sûr, que les conduites prostituelles s'arrêtent. Et quand on n'est pas sur une situation où le mineur se reconnaît en situation de prostitution, on est sur... comment nous, on arrive à accompagner dans la réduction des risques, dans l'arrêt des conduites à risque et vraiment dans la protection. Aujourd'hui, sur le consortium, on reçoit, donc sur le dispositif, on reçoit entre 10 et 30 appels par semaine. Depuis janvier, il y a eu une quarantaine de situations de mineurs avec une prostitution avérée ou non. Depuis 3 mois maintenant, 4 mois. On travaille avec le parquet, ce qui a vraiment changé la vie du dispositif et pour nous, en tant que professionnels, nous a vraiment permis de faire un pas en avant véritablement dans le travail auprès des mineurs, dans la protection. On travaille avec la protection de l'enfance aussi, qui a eu cette volonté sur ces derniers mois de se dire oui, on va construire ensemble. Et sur ce dispositif, on est soutenu par le département, par l'Observatoire violences faites aux femmes et aux filles, avec Anne Martinet, qui nous a permis de le mettre en place. C'est important de le dire. Donc, ce qui est important, c'est que ce dispositif, il était aussi dans une volonté d'être créé avec les acteurs du territoire, en se disant, nous, on ne veut pas être sur un jugement. Alors, bien sûr que la prostitution est une violence, et ça, c'est absolument indiscutable. Par contre, ce qu'on souhaitait discuter, c'était comment on reçoit un mineur. Est-ce que, lors d'un premier entretien, lorsqu'on reçoit un mineur, on doit dire, tu es en situation de prostitution, c'est une situation de violence, et moi, je sais comment te protéger. Par rapport à tout ce qui a pu être dit avant, je vais être très franche, si on dit ça, ils s'en vont, ou alors en tout cas ils ne reviennent pas. On parlait des fugues qui sont récurrentes, qui sont souvent de plus en plus longues, et nous l'objectif aujourd'hui c'est comment on arrive à créer du lien. Créer du lien, c'est comment on repère des personnes ressources autour du mineur, comment on les accompagne, comment on les outille pour pouvoir mettre des choses en place, des actions, comment on arrive en fait à faire en sorte que le mineur identifie des personnes ressources qui sont des personnes ressources d'un cadre structurant. Et puisqu'on reçoit très souvent des mineurs qui ont pu évoluer dans un système de violence, ont pu grandir dans un système où finalement c'est connu, la violence c'est connu, c'est quelque chose qui répond à un cadre dans lequel ils ont pu grandir, là où l'injonction d'un projet éducatif, d'un milieu stable, peut être extrêmement complexe, comme le milieu scolaire. Donc l'objectif c'est vraiment de se dire, on va partir de la demande de la personne qu'on reçoit, du mineur qu'on reçoit, on va entendre cette demande vraiment, et après on va réussir à réfléchir collectivement avec d'autres professionnels pour se dire comment on peut l'accompagner vers ce projet, vers cette demande, en étant dans une dynamique de protection. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur la vidéo, mais en tout cas, ce qui est important, et c'est un biais que nous on a pris, ça veut dire que l'idée a été de se dire, on reçoit le mineur, on part de nous, on part de nos inquiétudes, et on va dérouler pour lui dire que oui, on est là pour le protéger, que oui, on a des inquiétudes, mais qu'avant tout, on veut comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça peut prendre 1, 2 ou 3 entretiens, mais que finalement, quand les personnes, les mineurs qu'on reçoit comprennent que s'ils nous disent prostitution, s'ils disent escorting, s'ils disent michetonnage, il n'y a pas la police qui arrive dans les 4 secondes à la porte de notre bureau, que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas victimes, que ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas en train de travailler avec le parquet, parce qu'on leur dit qu'on travaille avec le parquet. On a la chance d'avoir une substitut qui est référente prostitution des mineurs, donc on l'appelle pour chacune des situations. Mais elle entend aussi que faire un signalement, ce n'est pas nécessairement lancer une enquête tout de suite, ou lancer une enquête, mais nous laisser le temps de créer du lien. Et ça, c'est important, parce que ce qu'on voit, c'est que quand l'intervention est trop rapide, quand nous, on va trop vite et qu'on ne respecte pas la temporalité de la mineure ou du mineur qu'on reçoit, il s'en va, et il s'en va parfois longtemps. Et du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir de nouvelles conduites à risque, de nouvelles mises en danger. Donc l'enjeu de la conduite d'entretien, c'est aussi de se dire, je respecte la façon dont tu perçois les choses, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu dis, et après en tant qu'adulte, c'est réussir à dire par contre ce que j'entends aussi quand tu parles d'escorting, quand tu parles de michetonnage, quand tu m'expliques les bons plans, que tu m'expliques que tu te débrouilles et que tu n'as pas besoin de nous parce que tu gères et parce que c'est une vie d'adulte et que en fait ça te donne un statut, que c'est un groupe et qu'il n'y a pas de problème. Moi, ce que je te dis par contre, c'est que des situations comme ça, on en a vu d'autres, on a accompagné d'autres mineurs et que, en fait, ça se passe jamais bien, qu'il n'y a pas de gentil client, que quand tu me parles de ton petit copain et que tu m'expliques ce qui se passe, moi, ça me renvoie quelque chose quand même où je me dis que ça m'inquiète dans ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et tout ça, c'est petit à petit, c'est poser des jalons pour qu'en fait, demain, ce mineur ou cette mineure, elles se disent « moi, j'ai repéré des personnes en qui je pense que je peux avoir confiance parce qu'elles ne me jugent pas, elles comprennent et en même temps, elles essayent de me protéger. »
Merci Léa pour cette intervention. Et puis justement, pour venir compléter tes propos, on vous a tout à l'heure distribué une trame d'entretien qui vient justement répéter les éléments de la vidéo sur les 5 temps à bien respecter et essayer de vous guider, professionnels qui n'êtes pas peut-être aguerris sur la conduite d'entretien, qui essayaient, qui doutaient. Cette trame d'entretien, elle est à s'approprier et encore une fois, c'est un outil 1.0 on l'espère, sera amélioré, notamment grâce à vos retours. Ce qu'on vous propose dès à présent, c'est peut-être de faire un temps d'échange avec la salle. J'imagine que vous avez des questions que vous avez qui ont pu émerger au fil des premiers entretiens, des premières discussions. N'hésitez pas à vous manifester.
Merci. Peut-être me lever, ce sera plus audible. Bonjour. Vous avez eu tout à l'heure la courtoisie de remercier tous les partenaires et institutions qui vous ont accompagné dans ce travail. Moi, je voulais à mon tour vous remercier de ce travail parce que je sais la détermination. Pardon, je ne me suis pas présentée, je suis Laurence Rossignol. Et j'ai effectivement eu l'occasion de discuter dès le début avec les trois porteuses de ce projet. Et je sais quand même la détermination quasi militante dont vous avez fait preuve pour arriver justement à convaincre les pouvoirs publics de vous donner les moyens de conduire cette recherche. Et je voulais que vous en soyez remerciés, ainsi que toutes celles et ceux. la tribune est assez explicite, que vous avez emmené, emporté avec vous dans ce projet et qui ont permis de fédérer des individus, des personnalités et des professionnels qui étaient déjà engagés sur ce sujet, mais qui étaient souvent un peu isolés. Et c'est très important que tous puissent se retrouver dans ce projet. Et j'espère que vous aurez de nouveau les moyens de continuer, parce que c'est un travail qui peut ouvrir d'autres portes et justifier une suite à ce que vous avez engagé. Trois remarques. Une d'abord sur le fait que les pouvoirs publics ne sont pas très en retard par rapport à l'évolution de la société. On est vraiment presque dans le temps, presque en temps réel dans vos travaux, et l'accompagnement a été important de ce point de vue-là. Ça, c'est vraiment très positif. La deuxième remarque que je voulais faire concerne le lien entre prostitution des mineurs et prostitution tout court, ou plutôt achat de services sexuels de mineurs et achat de services sexuels tout court. Et je me faisais la remarque en voyant la première vidéo où on pouvait penser, pardon, parce que la deuxième ou troisième vidéo qu'on a vue est très bien plus explicite là-dessus, que en fait, c'était l'achat de services sexuels auprès de mineurs était interdit, mais qu'autrement, il n'y avait pas de règles. Et dans l'autre vidéo, il est important de dire, je crois, que c'est interdit d'acheter le corps de quelqu'un, d'acheter, louer ou vendre le corps de quelqu'un, et parce qu'il ne faudrait pas que les mineurs pensent que c'est une activité émancipatrice d'un certain point de vue. Et on a une parole publique qui est insuffisante, à mon sens, sur ce sujet. Sur le fait qu'il y a un interdit de société sur l'achat de services sexuels avec une protection et une infraction pénale aggravée lorsqu'il s'agit de mineurs. Mais elle est aggravée, elle existe aussi pour les majeurs. Je voyais ce matin un article sur une affaire qui a été jugée en Seine-et-Marne de prostitution de mineurs, proxénétisme, les proxénètes ont été jugés. La jeune fille raconte qu'elle faisait une vingtaine de passes par jour. On ne voit pas trace des clients dans les poursuites pénales. En plus, elle dit qu'elle allait au domicile des clients, ce qui est encore plus facile à interpeller puisqu'elle a les adresses. Et les clients sont absents systématiquement. Et de ce point de vue-là, les pouvoirs publics sont mobilisés, mais je pense qu'on peut faire mieux, y compris en termes de parole publique. Juste une chose, l'année dernière, j'ai déposé un amendement pour, lorsqu'on a eu la discussion sur le critère l'âge, à partir duquel une relation sexuelle majeure mineure est un viol, de manière automatique. Et j'avais déposé un amendement pour que ce soit considéré comme un viol jusqu'à 18 ans lorsqu'il s'agissait d'une relation sexuelle tarifée, c'est-à-dire que le client d'une mineure soit considéré comme un violeur. Et j'ai pas eu gain de cause, parce que, argument, on va quand même pas envoyer aux assises des pauvres hommes qui savaient pas que c'était des mineurs. Mais on pourrait tout à fait inverser le mécanisme, à eux d'apporter la preuve qu'ils pensaient que c'était une majeure. Voilà. Et donc je pense qu'il y a une mobilisation et de la société, et de la justice, et de la police, à partir de la loi de 2016, qui doit être encore poussée pour permettre de protéger les mineurs. Je ne crois pas qu'on protégera les mineurs en étant laxiste à l'égard des clients des majeurs et en ayant une parole plus ferme à l'égard des clients des mineurs. Les deux doivent être, d'un certain point de vue, globalisés pour permettre des infractions aggravées pour les clients des jeunes. Et voilà ce que je voulais ajouter. Moi, je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas votre pratique, j'ai juste le point de vue du législateur. On peut continuer de rendre plus explicite, plus fort, plus puissant le message de notre société sur l'achat de services sexuels, y compris des mineurs. Merci.
Merci beaucoup. Merci Madame Rossignol pour ces quelques mots et je rebondis justement sur ce que vous venez de dire puisque durant ce terrain, au contact de professionnels, très peu déjà connaissaient l'infraction pénale par rapport aux mineurs, mais d'autant plus par rapport à majeurs, et on sait que malheureusement la loi de 2016 est très peu connue sur l'interdiction de recours à l'achat d'actes sexuels, et c'est là où on voit la pertinence et la nécessité de l'information, et l'information auprès des professionnels bien évidemment, mais aussi du grand public, et c'est là où justement votre retour pour les outils est précieux. Merci.
Bonjour, moi j'ai une question sur... Merci de vos interventions. Moi j'ai une question Partout où je suis allée pour une sensibilisation, un colloque ou une conférence sur le sujet, il y a toujours la même question qui revient. Prostitution des mineurs ou exploitation sexuelle, point d'interrogation. Et le terme prostitution des mineurs reste. Du coup, je m'interroge sur la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur ces termes-là. Et voilà.
Merci de poser cette question, qui nous tient aussi à cœur. Alors clairement, si on veut vraiment bien parler de la problématique, il faut employer le terme exploitation sexuelle. Qu'on vous explique un peu notre cheminement, c'est-à-dire que pourquoi parler d'exploitation sexuelle, et là aussi, hein, la littérature le dit, notamment dans les pays anglophones, parler d'exploitation sexuelle, puisque le terme prostitution est très connoté, que ce soit tant du côté des professionnels que du côté des mineurs. Puisque, grosso modo, vous pouvez, enfin, si une des représentations qui peut être attachée au terme prostitution, c'est que c'est volontaire, conscient, voulu. Et donc, il n'y a pas de problématique. Même si la loi dit que non, il y a une problématique. Et que le terme exploitation sexuelle est beaucoup plus explicite sur le fait qu'il y a de l'exploitation, et donc un rapport dominant-dominé. Clairement, nous, notre problématique, c'est qu'en fait, quand on a commencé notre travail, déjà le terme prostitution mineure, ça faisait peur, on nous a répondu que ça n'existait pas. Donc, c'est déjà en termes de représentation sociétale, sous contrôle de la sociologue, on se rend compte qu'il y avait déjà quelque chose qui n'était pas du tout acté. Quand je vous disais, le temps du constat partagé, il y a encore du boulot, il y a vraiment encore du boulot. Donc le constat partagé, il commence, mais il y a encore du travail. Et donc si on avait utilisé le terme exploitation, je ne suis pas non plus au clair avec ça, hein, c'est-à-dire que si on avait utilisé le terme exploitation, peut-être qu'on serait encore passé à côté de la problématique. Et donc dire, non, ça ne nous concerne pas. L'exploitation, c'est la traite, c'est les étrangers.
En fait, mon propos, c'était pour dire qu'on voit bien la difficulté entre ces deux termes-là et dans d'autres pays, effectivement, vous en parlez un peu, on a déjà un peu avancé sur cette question-là aussi. Et donc, moi, je n'ai pas d'avis du tout.
Oui. Après, c'est là où c'est intéressant en termes de représentation et de comment on peut aussi identifier et repérer. Mais il faut, en fait, tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire que les mineurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient de nationalité française, sont exploités sexuellement. C'est ça qu'il va falloir qu'on intègre. Mais il y a du boulot.
Madame Amédome, assistante sociale scolaire. Moi, je voulais aborder une question, sous forme de question plutôt, la question des réseaux sociaux où les jeunes vendent leur corps de façon virtuelle. On n'a pas parlé de ça, du moins, vous n'avez pas abordé la question. Et dans les établissements scolaires, nous remarquons la présence des jeunes sur des réseaux. Le haut, ça coûte tant, le bas, ça coûte tant, des danses, des positions proposées à des clients, ça coûte tant. Bon, pour les jeunes, ce n'est pas du tout de la prostitution, c'est virtuel. Qu'en pensez-vous ?
Le temps était compté pour aborder tous les sujets. Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que la définition de la prostitution, c'est un arrêt de la Cour de cassation et qui vise spécifiquement les rapports sexuels physiques. Et effectivement, le groupe de travail qui a eu lieu en 2021 s'est spécifiquement penché sur ce sujet et la question des relations sexuelles, de cette vente tarifée, la cyberprostitution est visée dans la proposition de définition qui est faite. Et on est complètement d'accord qu'il faut aussi viser celle-là. Absolument.
On commence avec le virtuel et on passe le pas vers le concret, les rendez-vous.
Alors, la seule réponse qu'on puisse vous amener je parle en présence de Monsieur Charbonnier encore une fois, mais c'est effectivement ce souci-là du groupe de travail, donc une définition qui serait effectivement amenée à évoluer. Et on voit, moi, pédiatre de terrain que je suis dans une consultation Enfants en danger, c'est effectivement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes filles qui arrivent, qui sont extrêmement mal et qui rentrent dans des situations prostitutionnelles après avoir été exposées de la sorte. Mais on est tout à fait d'accord que c'est une monétisation qui ne doit pas avoir, enfin, qui est prohibée. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, je pense que le truc, c'est aussi peut-être ce qui m'évoquait par rapport à tout l'ensemble des données qui avaient pu être partagées autour de cette table ronde. Je crois que les jeunes qu'on rencontre, pour lesquels on suspecte une situation prostitutionnelle, alors qu'elle soit effectivement factuelle dans une relation effectivement sexuelle tarifée ou virtuelle, voilà, je pense qu'il faudrait vraiment que on arrive à se mettre en tête, mais je pense que ces jeunes-là, en protection de l'enfance, ces jeunes qui sont en danger, on doit présumer qu'ils doivent nécessiter des soins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une présomption de nécessité de soins. Et ça, c'est une présomption de nécessité de soins inconditionnelle, avec effectivement la possibilité de faire des pas de côté, c'est-à-dire de semer des petits cailloux qui vont pouvoir après être cueillis, elles vont pouvoir revenir, elles vont pouvoir... Mais je crois qu'il faut vraiment être dans cette dynamique-là de présomption de nécessité de soins inconditionnels. Si un jour ça pouvait être marqué dans un code, on appellerait ça de nos voeux, on serait hyper contents.
Non, je me permets juste, en fait, nous, en effet, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, des jeunes qui démarrent la prostitution par le biais des réseaux sociaux, en envoyant, en effet, des vidéos, etc. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est qu'il va falloir, sur ce socle commun, que les professionnels, que les particuliers, les parents, comprennent qu'on est déjà dans la prostitution. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que parfois, les professionnels nous disent « bah, y avait eu ça ». En effet, elle avait elle avait envoyé des vidéos et contre de l'argent. Bon, sauf que, en effet, c'est déjà la prostitution. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment cette nécessité d'informer, de former, de sensibiliser, d'accompagner ces outils qui sont là. Et c'est bien. Moi, on les a communiqués hein, parfois pour le flyer sur des sessions de sensibilisation. On voit que les prostituées sont en demande, qu'il faut accompagner ça. Mais il va vraiment falloir créer cette culture commune de qu'est-ce que la prostitution, à quoi ça répond, et pas seulement tout ce qu'on peut avoir comme représentation autour de ça. Donc, je pense que c'est en effet très... Il y a un enjeu.
Et pour reprendre l'enquête de l'ODPE du Nord, on voit que les relations sexuelles... un rapport tarifé, c'est pas de la prostitution pour 6 mineurs sur 10. Et pour 8 mineurs sur 10, vendre effectivement des supports dématérialisés, c'est pas de la prostitution. Donc, voilà, le chemin, il est conjoint, quoi. Tant adulte qu'enfant. Mais c'est un vrai sujet. Hein.
Et je me permettrai une remarque et un partage. La remarque, c'est que ça renvoie tout de suite à la question de la prévention, mais primaire. Enfin, vraiment, de qu'est-ce qu'on fait sur la question de mes usages. Tu utilisais le mot mes usages des réseaux sociaux. C'est magnifique, les réseaux sociaux. Mais effectivement, est-ce que nos enfants, nos adolescents sont suffisamment armés et outillés pour faire face à ce qu'ils vont voir dérouler sous leurs yeux? Donc, ça renvoie déjà à cette première prévention. Et un partage sur la question de la création des outils, justement dans la définition même, et notamment avec nos subventionneurs, on a beaucoup discuté de comment on allait définir. C'est pour ça qu'on a marqué un acte de nature sexuelle. C'est ce qui nous paraissait le plus pertinent et opportun pour essayer de caractériser tous les types aussi de prostitution, et que ce n'était pas que, effectivement, avec la question physique, même si... La Cour de cassation dit avec contact physique. Nous, la recherche ne s'est intéressée qu'avec contact physique. Et on ne sait pas du tout, ça, parce que c'est encore un autre volet, enfin, c'est, même si c'est conjoint. Enfin, mais vous voyez, c'est tellement tentaculaire que c'est compliqué d'avoir tous les bouts, quoi.
Je me permets juste de compléter aussi par rapport à ce que tu dis, Mélanie. Il y a la question de la prévention générale aussi, de l'éducation à la sexualité, voilà, qui est quand même... quelque chose d'important. L'éducation aussi sans violence, enfin, la lutte contre les violences éducatives ordinaires, c'est de la prévention primaire des situations prostitutionnelles, parce que c'est aussi le respect de l'altérité, les échanges respectueux. Donc je pense qu'on doit effectivement, ce qui avait pu être échangé en début de séance en disant que ça ne doit pas être morcelé, mais bien, on fait bien partie d'un tout. Donc je pense que l'éducation à la sexualité, la lutte contre les violences éducatives ordinaires, et puis aussi Chez les enfants qui sont plus volontiers suivis en protection de l'enfance, il y a réellement un travail à faire, parce que c'est aussi ces jeunes-là qui sont dans des parcours, qui peuvent être dans des parcours extrêmement chaotiques. Et c'est aussi aujourd'hui, alors la population qu'on voit, en tous les cas, dans nos consultations. Je pense aussi, alors si on fait un peu un pas de côté, à un moment donné, il va falloir aussi s'intéresser à la question du proxénétisme, en particulier chez les jeunes, parce qu'on est très étonné de voir que le proxénétisme de ces jeunes filles-là, c'est des jeunes adultes, en fait. C'est pas j'emploierai le mot de proxénète quinca bedonnant, Charlotte. Mais du coup, il y a aussi ça, il y a aussi tout le lien violence subie, violence agie, qui sont extrêmement liés. Et la problématique de l'adolescence, c'est quand même une problématique très, très complexe et qui est le réceptacle de ce qui s'est passé antérieurement. Voilà.
Bonjour, Olivier Luciani, je coordonne une mission de maraude mixte et d'aller vers sur le territoire du Grand Saint-Charles à Marseille, dans une association de prévention spécialisée à la DAP 13. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour ce travail. Vraiment, ça a été un travail d'investigation. Je voudrais vous remercier aussi d'être venu nous rencontrer sur le territoire. Ça a été des débats et des échanges passionnants. Ensuite, dans un second temps, je vais peut-être aller un peu vite, mais ça me fait beaucoup réfléchir à ce qui se dit dans la salle. Et j'ai des pistes de réflexion. J'aimerais réfléchir avec vous sur ce que vous dites sur l'accueil inconditionnel des jeunes qu'on rencontre sur le territoire, sur la coopération et la coordination des acteurs sur le territoire, que ce soit avec les politiques publiques, les politiques sociales, tous les acteurs, et les solutions. Les solutions, c'est-à-dire les moyens qu'on peut avoir. Et quand on parle d'accueil, on rencontre des situations, tous les professionnels là qui sont dans la salle rencontrent des situations traumatisantes, traumatisées, avec des parcours chaotiques. La réduction des risques est importante, mais maintenant, je me dis comment mettre à l'abri les situations quand elles arrivent, parce que tout est saturé. Voilà, on a des idées, les professionnels ont plein d'idées, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler, à mêler littérature, recherche-action et travail en commun avec les acteurs du territoire pour pouvoir continuer à développer des actions. Et voilà, merci beaucoup.
Merci, Monsieur Luciani. En effet, c'est vraiment votre retour. C'est aussi ce qui nous a été fait pendant ce temps de la recherche action et là, plus récemment, avec l'arrivée du colloque. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et puis aussi, on est sollicité pour des situations sur différents territoires de manière très pratico-pratique. On nous appelle en nous disant, voilà ce qui se passe, j'ai une situation d'urgence, tout est saturé. Qui je peux contacter? Qui je dois contacter? Donc c'est vrai qu'on a... On a tendance à essayer de solliciter à notre tour les pouvoirs publics et puis la DGCS pour demander justement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Merci Madame Bricard de toujours être aussi disponible dans ce cas. Et après, le plan de lutte qui a été annoncé il y a peu par Monsieur Taquet va peut-être aussi permettre de répondre à certains points. Après, la question en effet des établissements et puis des lieux de mise à l'abri saturés, c'est quelque chose qui doit être travaillé avec peut-être l'ouverture de nouveaux lieux ou repenser des lieux aussi. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Et également, vous parliez de coordination entre les professionnels. Martine et Léa aussi ont abordé cette question. Coordination entre les professionnels de l'aide sociale enfance, de la PJ, du parquet et bien sûr du soin. Faire le lien entre chacun de ces acteurs sur chaque territoire est essentiel pour qu'une situation soit concertée, soit travaillée par l'ensemble de ces acteurs pour essayer de trouver la solution, en tout cas y réfléchir tous ensemble.
Et pour terminer, je voulais vraiment partager le propos des collègues en disant que on est vraiment sur la réduction des risques quand on travaille avec les mineurs, mais quand ils deviennent jeunes majeurs, là aussi c'est particulier. Donc tout le travail de création de relations, de liens, va faciliter aussi la prise de recul et le, on en parlait avec ma collègue, bénéfice-risque. C'est le lien bénéfice-risque. C'est qu'est-ce que je vais lâcher et où je vais aller derrière. Et avec les acteurs de l'insertion professionnelle spécialisés aussi, ben le fait d'avoir ces données-là et ces perspectives, on arrive à trouver des solutions.
Non, je me permets, parce qu'en fait, je vous rejoins complètement. Et pour donner un exemple concret, parce que quand même, c'est important. Donc, moi, j'appelle beaucoup Hélène Pohu sur des situations quand je me sens bloquée, ce qui arrive régulièrement. Quand à un moment, nous, sur les ressources du territoire, en effet, on a ce consortium, on a cette pluridisciplinarité, puis on a cette force de réfléchir ensemble. Et puis, ben, en fait, après, parfois, on n'a pas les moyens pour les raisons que vous connaissez tous ici. Et donc, c'est arrivé que Hélène me permette de rentrer en contact avec certains d'entre vous. Je pense à Mathias Cornu, en l'occurrence, mais que j'ai pu appeler. C'est-à-dire que même collectivement, je crois qu'il y a nos territoires propres. Et puis après, il y a comment on arrive à bosser ensemble aussi au niveau national, de pouvoir s'appeler, de se dire, bah, écoute, moi, là, il se passe ça, on a cette mineure, cette situation, c'est celle-ci. Toi, tu ferais quoi ? Parce que finalement, en effet, il y a notre territoire et il y a nos réalités, mais il y a aussi en fait comment on arrive à mettre en synergie nos compétences, parce que chacun on a développé des choses, et comment ça peut servir des situations aussi, parce que de toute façon ces jeunes ils sont mobiles, et que là ils sont chez nous mais demain ils seront chez vous. Et je crois que c'est intéressant, enfin, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, et vraiment grâce au travail qui a été fait par la recherche action, parce que ça nous a mis en contact les uns avec les autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver, parce que c'est pas le tout de se voir comme ça de temps en temps, c'est comment on crée vraiment une dynamique sur nos territoires propres et demain aussi ensemble. Donc je suis complètement d'accord.
Et on se tourne vers Monsieur Cata et on me dit la question de la coordination nationale.
Désolée. Je pense qu'il y a un point aussi que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est effectivement, alors la santé c'est ce que je connais, on est au ministère de la Santé, mais je connais le médico-social pour y travailler, voilà, donc vous me pardonnerez un peu ce centrage santé, mais ce que l'expérience qu'on a en tous les cas dans le service dans lequel je travaille et sur les situations qu'on rencontre, c'est que la santé ça peut être un fil rouge qui peut tenir, c'est-à-dire que c'est un fil rouge qui peut tenir dans l'alliance avec les familles, c'est-à-dire est-ce que le mineur veut bien qu'on dise, quand il y a une famille qui est présente, est-ce qu'il veut bien qu'on dise quelque chose de sa santé ? Donc on reprend les droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit des mineurs. Donc ça, je trouve que c'est quand même très intéressant quand on peut travailler sur ce sujet-là. Et la santé, ça peut être aussi un fil rouge, parce que le mineur va rester avec son enveloppe corporelle jusqu'à la fin de ses jours, et il faut aussi qu'il puisse la bien mener. Et la santé donc appartient vraiment à l'enfant, et donc et à l'adolescent, et par conséquence elle appartient aussi aux travailleurs sociaux, aux médecins qui sont autour d'eux, c'est pas la propriété d'un corps de métier, donc ça c'est, je pense que c'est vraiment très important de le dire, et je pense que pour le coup il y a vraiment un gros effort à faire me semble-t-il, mais de la part de nous tous, sur le partage d'informations à caractère secret, parce que ces consultations en santé, elles peuvent être très précieuses pour le mineur, mais en fait il faut effectivement que le médecin qui consulte ou la puéricultrice ou l'infirmière qui sera là soit OK pour partager. Il faut effectivement qu'elle mette le mineur dans la boucle, que le carnet de santé soit apporté par le travailleur social. Donc on a tous quelque chose à faire sur cette santé. Et je trouve que si ce sujet nous permettait effectivement de travailler sur le partage d'informations à caractère secret avec les dispositions législatives qui sont en place et qui fonctionnent, je trouve que ça serait vraiment, en tous les cas, quelque chose de très précieux et très précieux aussi à déployer dans les unités telles que les UAPED, les équipes référentes. Et en tous les cas, je peux vous dire que la Société française de pédiatrie médico-légale appelle ça de ses voeux.
Alors, moi, je me permets de réagir, en fait, c'est au commentaire de l'assistante sociale scolaire. En fait, moi, je suis intervenante sociale en gendarmerie, donc c'était pour réagir sur la question de la prostitution via les sexcams ou les choses comme ça. Donc, sur notre territoire, on a beaucoup de situations, et on a plus de situations de prostitution via les réseaux que en indoor ou outdoor. C'est important de savoir que c'est un délit et que ça s'appelle une corruption de mineurs, que le législateur a créé aussi le délit de diffusion d'images à caractère pédopornographique. Donc c'est important que le professionnel puisse dire aux parents que c'est un délit, qu'on peut déposer plainte, et c'est quelque chose qu'on travaille depuis plusieurs années et qui est vraiment important que tout le monde comprenne. C'est un délit qui est reconnu. Et en plus, ça permet de faire des enquêtes avec généralement plus de matière, parce qu'il y a une recherche d'IP, c'est plus facile d'accéder en fait à l'auteur de cette façon-là. Donc il se passe plein de choses aussi sur cette question qui est peut-être moins... Je voulais aussi rebondir sur la question des ministères et des statistiques. Nous aussi, en gendarmerie, au niveau local, on essaye de chiffrer, mais en fait, on n'y arrive pas parce qu'on a la question du proxénétisme, la question de la diffusion d'images à caractère pédopornographique, la question de la corruption de mineurs. Et en fait, on se retrouve avec plusieurs intitulés qui vont traiter plus ou moins de la même chose. Ça va un peu dépendre aussi de l'orientation du parquet, en fait. Comment on va qualifier... parce que pour moi, c'est du proxénétisme aussi, en fait, que de demander des images. Donc on a, sur le champ judiciaire et sur le champ des enquêtes, nous-mêmes, cette difficulté, parce qu'on ne parle pas de la même chose, et je rejoins l'idée de créer un délit de prostitution de mineurs, un grand chapeau qui nous permettrait d'avoir des moyens d'enquête aussi adaptés. Mais il faut absolument déposer plainte quand les parents ou quand les professionnels ont connaissance de partage d'images donc à caractère pornographique, que ce soit mineur ou majeur. C'est important.
Oui, bonjour à tous. Gilles Charbonnier, je suis avocat général à la Cour d'appel de Paris. Et j'ai coordonné avec mes collègues de la DGCS et de la DPJJ aussi les travaux du groupe de travail de Catherine Chanreneau, qui a été présidée par Catherine Chanreneau, dont on a parlé. Et je voulais dire quelques mots. D'abord pour dire toute la satisfaction que nous avons, moi, les membres du groupe de travail, Catherine Chanreneau évidemment, de voir que cette recherche action qui était de pair avec les travaux que nous avons conduits de 2020 à 2021, de voir que cette recherche-action donc, produit ses résultats dans les temps qui étaient prévus initialement et avec cette mission qui est, me semble-t-il, remplie au vu de ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est-à-dire une enquête pluridisciplinaire, ça on en avait besoin, des chiffres, vous en avez rassemblés, et également des outils pour le grand public et pour le professionnel. Donc ça, c'est bien. Et on est vraiment content parce que vous vous souvenez que lorsqu'on a fait ces travaux du groupe de travail, eh bien, nous avons associé l'équipe, évidemment, très étroitement, de manière à ce que les constats que nous pouvions faire soient vraiment connus et partagés. Après, je dois dire que le rapport du groupe de travail a conduit à l'élaboration de 100 propositions. 100 propositions qui ont été soumises et nous avons été très satisfaits de voir, alors que le groupe de travail a rendu ses travaux au mois de juin, qu'au mois de novembre, comme vous l'avez dit, monsieur le sous-directeur, eh bien, le plan de prostitution, le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs a été lancé avec des mesures assez emblématiques. Et je voudrais quand même dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura une séance de sensibilisation sur la prostitution des mineurs, les dangers de la prostitution des mineurs dans toutes les écoles. Et ça, c'est une mesure qui est contenue dans le plan et qui est absolument fondamentale, essentielle, tant l'éducation nous a paru importante dans cette affaire. Cela dit, un tiers des propositions que nous avions faites ont été reprises dans le plan. Il y en a deux tiers qui ne l'ont pas été encore directement et certaines portant sur des sujets que vous avez indiqués dans vos interventions. Par exemple, la question des opérateurs sur Internet, la question également des fugues. Et nous avons constaté, je parle évidemment en présence aussi des représentants de la police et de la gendarmerie, des collègues du parquet, nous avons constaté tout le travail qu'il y avait à faire sur les fugues, tout le travail qu'il y avait à faire pour l'assistance du mineur devant la procédure judiciaire, avec le barreau, avec les avocats, avec également les administrateurs ad hoc. Et nous avons également fait un certain nombre de propositions de modifications législatives. Pour ce qui concerne la loi, d'ailleurs, je dois dire que le législateur, en 2021, a incriminé effectivement des pratiques virtuelles par Internet, donc par des réseaux. Et donc effectivement, pour les mineurs, il y a une progression sur ce plan-là, et donc on peut incriminer, je confirme ce qui était dit, on peut incriminer des pratiques virtuelles grâce à la loi de 2021. Donc ça, ce sont des points qui sont extrêmement positifs, mais il y a quand même des éléments à développer au niveau de la loi, et ça, ça nécessite évidemment une mobilisation. Je terminerai en disant qu'évidemment, évidemment, et vous y êtes arrivé assez naturellement, la question de la coordination des acteurs est absolument fondamentale. Et nous avons repéré en gros quatre piliers dans cette affaire. Il y a le pilier éducatif au sens large, l'éducation nationale, l'éducation spécialisée, l'ASE, la PJJ, bref, tout le monde éducatif. Il y a le monde de la santé, évidemment, on en a également beaucoup parlé avec le docteur Balanceau, le monde de la police et de la justice, et puis il y a également le terreau associatif qui est extrêmement dynamique sur le terrain et avec lequel il faut absolument que les institutions travaillent. Et je dirais que pour que cette coordination puisse s'effectuer, j'allais dire avec le maximum d'efficacité, vu les moyens qui sont développé, 14 millions d'euros, c'est déjà bien, mais on voit bien que les moyens qu'il faut sont absolument considérables, d'où l'importance d'une coordination, d'où l'importance, comme le dit le docteur Balanceau, qu'il y ait un véritable échange du secret et un travail vraiment de proximité à deux niveaux, c'est ce qu'a préconisé le rapport, au niveau national. Et je rejoins l'interpellation de Mélanie Dupont à l'instant, une coordination au niveau national est absolument nécessaire, un pilotage au niveau national est absolument nécessaire, mais nous avons dit également qu'un pilotage au niveau local, au niveau départemental, et ça, c'est pour répondre à la préoccupation de monsieur là sur le sujet, vraiment un pilotage local, départemental, est absolument nécessaire parce que les synergies se créent au niveau local, se créent sur le terrain, et que c'est évidemment à ce niveau-là aussi qu'il faut que les acteurs se connaissent, que les parquets connaissent leurs interlocuteurs, que les médecins connaissent leurs interlocuteurs. Et donc il y a là un vrai chantier à conduire, mais c'est quand même extrêmement satisfaisant de voir le chemin qui a été parcouru depuis 2019, depuis le plan sur les violences faites aux mineurs. Et c'est quand même très satisfaisant de voir qu'aujourd'hui, le constat, il est pluridisciplinaire, de voir que le constat, il est partagé. Et comme l'a dit Mélanie Dupont, eh bien aujourd'hui, il faut tout simplement mettre en musique tout ça. Et il faut évidemment agir et agir tous ensemble. Voilà, je vous remercie.
Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci à l'équipe encore une fois pour ce travail si nécessaire et de fond qu'on suit de près. Je suis Valérian Benazet, responsable du pôle recherche à DPJJ. On a déjà échangé. Et moi, il y a une question qui me venait par rapport aux nombreux acteurs et comment on a parlé que leur coordination était importante. Si centraux, mais si aussi effacés ou pas actifs, sont les plateformes elles-mêmes. Les outils de partage qu'on connaît tous, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que vous voudrez. Dans quelle mesure est-ce qu'eux aussi ils sont impliqués? Est-ce qu'il y a une réflexion d'enclencher pour voir dans ce qu'ils pourraient apporter pour prévenir, pour sensibiliser, pour signaler, pour aider à la prévention, qui est une étape vraiment importante là-dedans? Je n'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment centraux, saisis et questionnés sur le sujet. C'est peut-être une ignorance ou de la naïveté de ma part, mais c'est quand même à questionner. Je veux dire, n'importe quel endroit qui sert de divertissement, une boîte de nuit, un bar, une association, super, elle sert à ça, c'est un bon usage. Et son mésusage, si jamais on venait à apprendre qu'elle sert par derrière à des situations de prostitution ou quoi, automatiquement, il serait au centre de la problématique et questionné. Donc, comment ça se passe par rapport à eux? Est-ce qu'il y a des réflexions d'enclencher à partir de là? Et bien sûr, le législateur aussi, à un moment, pourrait peut-être saisir la question. Voilà, c'était ça que je voulais soumettre à l'Assemblée.
Merci. Et je pense que M. Charbonnier va pouvoir nous éclairer, puisque ce sont des discussions qui ont lieu lors du groupe de travail. Notamment, toutes ces plateformes ont été auditionnées par le groupe de travail et ont pu apporter quelques réponses. M. Charbonnier.
Oui, merci Mme Pohu. Effectivement, le groupe de travail a auditionné les plateformes et je dois dire, grâce à nos contacts avec le CSA notamment, on a pu avoir une brochette significative d'opérateurs sur Internet, avec lesquels, et vous le voyez bien, avec ce sujet-là, c'est le partage des cultures qui est au cœur du sujet. Et effectivement, il a été très intéressant d'exposer quelles étaient nos problématiques. Je peux vous dire que les associatifs qui étaient présents ont exposé très très directement à ces plateformes leurs problématiques, l'accès à la pornographie, l'absence de contrôle. Les services de police et de gendarmerie qui étaient présents ont également vraiment insisté sur l'absence de réponse aux réquisitions judiciaires. Donc bref, tout a été mis sur la table. Et le groupe de travail a effectivement fait des propositions sur le sujet. Et la proposition phare, je dirais, qui est encore en devenir, puisqu'elle n'a pas été incluse dans le programme de la prostitution des mineurs de 2021, la proposition phare, c'est que finalement, il y ait une structure permanente, une concertation permanente, en tout cas une concertation régulière, des principaux acteurs intéressés, de manière à ce que l'on puisse repérer les difficultés et que l'on puisse également faire de la modération, faire de la formation, parce qu'on s'est aperçu aussi que dans ces acteurs du numérique, parfois de bonne volonté, il y a aussi un problème de formation, un problème d'information. Celui qui, on l'a dit, c'est la question de la prostitution des mineurs. Qu'est-ce que la prostitution des mineurs? Qu'est-ce que le proxénétisme? On l'a dit, il y a besoin d'information du grand public, des professionnels, de tout le monde sur ce que revêtent ces réalités. Ben, c'est pareil aussi chez Facebook, chez Airbnb, chez Instagram. Il y a aussi besoin d'une formation, il y a aussi besoin de connaître précisément la loi, et je crois que ce qu'a aussi montré le groupe de travail, c'est que la loi n'était pas suffisamment connue. Donc il faut faire un travail avec ces acteurs du numérique, et nous avions proposé à l'époque que cette structure, j'allais dire régulière, d'échange et de travail en commun se réunisse sous l'autorité du CSA, qui aurait pu tout à fait, dans le cadre des nouvelles prérogatives qui lui ont été attribuées par le législateur il y a un an ou deux, qui pourrait tout à fait reprendre à sa mesure ce type de concertation. Évidemment très nécessaire, parce que le problème est majeur, et je crois que tous ici vous le constatez avec les jeunes que vous rencontrez et avec les situations qui vous sont exposées.
Peut-être une dernière question? Deux dernières questions? Trois dernières? Oula.
Bonjour à tout le monde. Donc déjà, merci pour le travail effectué. Moi, j'aurais juste une petite question. En tant que parent, quand on repère, parce que souvent, on se sent très, très seul, on est des fois même peut-être jugé. C'est pas des fois, on est souvent jugé. Quand voilà, on repère et qu'on se sent seul, parce qu'on est aussi victime, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a porté plainte, bien sûr, et qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on l'a repéré?
Clairement, c'est toute la question et tout l'enjeu, puisque là, on est bien d'accord, et on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure après la pause. C'est toute cette question de la solitude, et que même si on tape aux portes, et que effectivement les parents ont beaucoup témoigné de ça, de pouvoir avoir sollicité tous les intervenants possibles et inimaginables, et de n'avoir aucune réponse, Alors, j'ai pas la réponse, hein, clairement pas. J'aurais jamais cette prétention-là, et je crois que c'est ça qu'il faut co-construire ensemble, et d'avoir ce langage commun, mais aussi cette réponse commune. Et surtout, alors, s'il y a peut-être quelque chose qui me vient en tête, c'est de jamais lâcher. Jamais lâcher, jamais lâcher, mais ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Et après, c'est là où je crois qu'on a à réinventer aussi nos pratiques, même si on n'arrête pas de le dire, mais qu'on le fait très rarement, et en tant que psy, je le dis aussi, c'est vraiment de travailler avec les parents. Et d'être à la fois, oui, travailler, et tu disais bien cette question de délier le secret professionnel quand il s'agissait enfin, de ces situations-là, mais surtout d'inclure tous les acteurs concernés, et donc les parents, la famille, l'entourage.
Bonjour à toutes et tous, Jimmy Messineo, responsable qualité et développement de la Fondation Droit d'Enfance. C'est pour réagir à la question de madame et à certaines interventions de tout à l'heure. Donc la Fondation, qui gère aussi le numéro 116 000 enfants disparus, était membre donc, du groupe de travail qui a été évoqué. Et suite au plan d'action du ministre Adrien Taquet, donc il y a eu cette campagne de communication Je gère, donc qui remet en avant la possibilité pour les parents d'appeler le 119. Et donc il y a un partenariat qui existe entre le 119 et droit d'enfance. Quand les parents appellent le 119 pour évoquer une situation de prostitution d'un mineur ou les professionnels, ils seront ensuite réorientés vers une cellule de suivi et d'accompagnement des professionnels et des parents confrontés à une situation de prostitution de mineurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter via donc ce contact préalable au 119. Et on a également une mission de réaliser une cartographie, un maillage des dispositifs qui existent sur l'ensemble du territoire. Donc aussi, je vous serai à disposition des professionnels.
Et on aura très prochainement un appel à projet à destination d'acteurs associatifs aussi pour développer des structures spécialisées sur l'ensemble du territoire. Donc on est bien conscient qu'il y a des manques en ce moment, mais le projet, c'est voilà, d'aller vers du mieux et de pallier à ça.
Alors, j'ai une question et c'est des questions ouvertes, vraiment. En fait, quand on parle de prostitution des mineurs, ou en fait aussi de violences faites aux femmes, parce qu'en fait les deux, en fait, faites aux femmes, faites aux jeunes filles, on parle tout le temps en fait aussi des victimes, mais on ne parle jamais des auteurs tels que des auteurs, et on ne les interpelle pas. Donc je pense que en fait, beaucoup d'entre nous ont déjà travaillé sur ces questions-là et ont vu en fait à quel point travailler sur les auteurs donc, pourrait être bénéfique, ne serait-ce qu'en fait avec des campagnes de sensibilisation. Donc peut-être, comme on est là, en fait, dans une assemblée avec des professionnels à différents niveaux, donc on est local, départemental, région et national, donc ça serait intéressant, en fait, d'y réfléchir et d'inciter aussi, en fait, donc les professionnels des différentes levels de travailler sur cette question et donc d'innover en termes d'action et d'accompagnement. Après, en fait, j'ai une deuxième réflexion qui est par rapport, en fait, à l'impact, en fait, des entreprises. Donc, et en fait aussi l'importance de les impliquer dans en fait les enjeux sociaux. Donc, les entreprises, le monde des entreprises est en train d'évoluer et peut-être réfléchir à comment en fait cibler leur politique RSE, donc pour faire en sorte qu'ils limitent aussi leurs dégâts vis-à-vis de l'impact social, donc notamment de la prostitution des mineurs, notamment par rapport à la pornographie et à sa propagation en fait chez les jeunes. Donc les pratiques ont montré que en fait on identifie les jeunes grâce à des algorithmes. Donc comment faire en sorte justement que en fait ces algorithmes soient limités. Donc comment faire en sorte que législativement parlant en fait on puisse avoir un contrôle sur la diffusion des données. Donc voilà. Donc juste, c'est des réflexions comme ça, en fait.
Mais elles sont très bonnes, vos réflexions. Très, très bonnes. Non, mais enfin, vous avez entièrement raison, et notamment, je vais peut-être plus répondre à votre première intervention sur la question des auteurs. Vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'on cible beaucoup sur la question des victimes, mais si on veut prendre en charge les victimes, il faut prendre en charge aussi les auteurs, il faut les informer. Et donc, ça revient à ce qu'on se disait aussi tout à l'heure sur la notion d'information auprès des clients. une vraie information. Donc déjà passer effectivement par ça et après de pouvoir, je repense, enfin, j'associe aussi par exemple sur cette question de tout à l'heure on parlait des proxénètes et notamment le fait que ce soit les pairs PAIRS des jeunes. Le projet initial de la recherche voulait s'intéresser aux mineurs proxénètes. J'ai jamais pu en rencontrer. Donc il y a une grande difficulté à pouvoir avoir accès à ces jeunes-là, sachant que la réponse a été oui, on en a, notamment auprès de la PJJ, hein, c'était de pouvoir questionner. Mais par contre, après, de pouvoir avoir ce deuxième step qui est de dire est-ce qu'ils acceptent ou est-ce que on peut. Pourtant, les professionnels étaient motivés, hein, ils y ont été, mais j'ai jamais eu effectivement de réponse positive pour pouvoir avoir accès à ces jeunes-là. Donc là, il y a tout un volet, et je crois que c'est une recherche en soi, hein, clairement, de pouvoir s'intéresser aussi à ces jeunes qui deviennent proxénètes.
Il y a aussi un phénomène quand même qui est important, c'est le phénomène des victimes auteurs, auteurs-victimes. Nous, on voit ça vraiment beaucoup là sur le terrain, dans les accompagnements de mineurs qui vont proposer à d'autres mineurs de participer notamment à ce qu'ils appellent des soirées festives. Et ça, c'est quelque chose, c'est un vrai travail. Ça veut dire que les jeunes qu'on reçoit, elles n'ont pas du tout, c'est majoritairement des jeunes filles là, auxquelles je pense, mais elles n'ont pas du tout conscience qu'en proposant à d'autres mineurs qu'elles connaissent, à un groupe de pères, à leurs amis, de venir participer avec elles à ces soirées, à les inciter à avoir des rapports sexuels tarifés, c'est être proxénète. Et je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est pas manichéen et c'est pas binaire. Et parfois, il y a vraiment ce phénomène victime-auteur-auteur-victime qu'on rencontre beaucoup sur les accompagnements qu'on peut mener.
Alors, je vois le temps. On prend une dernière question parce que je vois le temps qui défile. Il y aura d'autres tables rondes, hein, donc il y a d'autres temps d'échange, mais effectivement qu'on puisse...
Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Donc je suis Mathilde Frassy, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité de Paris, en charge de la commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Et je suis accompagnée de ma collègue de la préfecture de police, Colline Rabina. Pareil, peut-être deux réflexions. Donc à Paris, depuis le 2017, nous, on a eu à peu près 200 parcours de sortie de prostitution, donc uniquement pour des majeurs. Et c'est vrai que je rejoins monsieur de Marseille. Bonjour. Sur ces 200 parcours, on n'a eu qu'une seule personne française, en fait. Donc peut-être aussi à réfléchir justement sur ces jeunes majeurs français qui ne rentrent pas dans ce dispositif. Donc peut-être que le dispositif est à retravailler également, mais ça c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Et ensuite, un deuxième point, nous on est en train de remobiliser un groupe de travail sur la prostitution des mineurs à Paris. On est en pleine réflexion actuellement et c'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses qui nous intéressent et notamment sur des choses qui marchent et qui se font ailleurs sur le territoire hors Paris et hors francilien. Donc on est très intéressés pour se mettre en contact et pour travailler sur des choses que vous avez évoquées. Voilà.
Merci. Ben justement, on va clore cette première table ronde, faire une petite pause de 15 minutes et ensuite on va pouvoir arriver sur une deuxième table ronde où vous verrez justement de nouveaux professionnels qui vont pouvoir nous donner à voir leur réalité de terrain également.
Et juste une information avant que je n'oublie. Donc ce colloque est enregistré et donc on vous transmettra un lien pour la retransmission, comme on a eu beaucoup de demandes, notamment de nos collègues provinciaux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer, on vous transmettra ce lien avec les vidéos des conférences.